Vous êtes sur RTL.
Oui, ça va devenir une bonne habitude, Stéphane. Regardez.
Ce stage se termine bien. Ouais.
Il reste trois jours et je vais m'y tenir, je vous promets.
Formidable, à demain 5h. Bonjour à vous tous, ravi de vous offrir aujourd'hui encore un copieux RTL Matin avec deux temps forts, sachez-le. Une médaille d'or au JO de Tokyo pour nos rameurs tricolores à l'envi avec les bras et surtout les jambes. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron ont décroché cette nuit le Graal en aviron. Ils étaient déjà champions du monde et d'Europe, ils sont champions olympiques et ils seront avec nous depuis Tokyo tout à l'heure à 7h15. Et puis avant les vacances, c'est le dernier conseil des ministres, Bruno Le Maire passe par RTL à 7h45. Le ministre de l'économie et des finances tentera entre autres de rassurer les professionnels impactés par la mise en place du pass sanitaire. C'est alerte rouge dans les cinémas, les théâtres, les parcs d'attractions. Des chutes de fréquentation vertigineuses qu'il va falloir compenser. Question-réponse donc dans trois quarts d'heure avec le ministre. Sans oublier nos promenades du matin au cœur de l'été, le rire de nos grosses têtes et la musique et la pépite du mercredi.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne.
Monsieur Serge Gainsbourg en version longue tout à l'heure. C'est du bon, c'est du lourd. Bienvenue, bon réveil, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe et vous dit tout sur l'actualité du mercredi. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et donc un duo en or, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron offrent à la France un troisième titre olympique.
Nouvelle médaille cette nuit en aviron avec un record à la clé. Dans ce journal également, une bijouterie parisienne braquée par un malfaiteur à trottinette. Les cinémas, les parcs de loisirs, les salles de sport désertées depuis l'instauration du pass sanitaire. Les vacances sous conditions du gouvernement. Et puis Israël qui tente de recoller les morceaux avec la France après l'affaire du logiciel espion Pegasus.
RTL à Tokyo.
Ça faisait 17 ans que les Français n'avaient pas décroché l'or olympique dans cette discipline.
Oui, c'est la bonne nouvelle de la nuit. Mathieu Androdias, Hugo Boucheron sacrés dans l'épreuve du 2 de couple, c'est de l'aviron. Ils étaient donnés favoris. Nicolas Burnon, ils n'ont pas déçu.
Oui, un duo de choc qui a su se réunir sur le bateau pour gagner et battre l'équipage hollandais dans les 100 derniers mètres. Deux profils atypiques, deux styles différents. D'un côté, le facétieux Hugo, quartier maître de 28 ans, toujours le mot pour rire. De l'autre, Mathieu, ingénieur de 31 ans, sérieux, qui analyse tout. 25 heures d'entraînement par semaine depuis 2015 au pôle de Lyon. Les rameurs sont licenciés au cercle de l'aviron de la ville. Finaliste aux Jeux de Rio en 2016, titre de champion du monde en 2018. L'hiver dernier, ils attrapent le coronavirus, qui perturbent leur préparation. Ici, sur le bassin de Tokyo, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias avouent franchement embêtés ne pas avoir réussi à faire la course parfaite, mais ils ont un mot pour le travail d'Alexis Besançon, leur entraîneur, debout à leur côté. C'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire. Il m'a emmené sur le toit du monde, raconte Hugo pudique, la gorge nouée. Il s'arrête de parler. C'est finalement grâce à lui aussi qu'il vient d'être sacré champion olympique.
Nicolas Burnand, envoyé spécial de RTL à Tokyo. C'est donc la 8e médaille pour les Français, la 3e en or après le titre olympique décroché hier en judo par la porte-drapeau Clarisse Agbenienou. C'était le seul titre qui manquait à son palmarès.
Je peux dire que ce titre, c'est le plus beau de ma carrière. C'est surtout celui qui était manquant. Et à chaque fois, je dis que c'est la compétition de l'univers et je suis tellement fière de l'avoir aujourd'hui. C'est incroyable. J'étais favorite un peu partout. Porte-drapeau, favorite, j'avais beaucoup de choses à gérer. Mais je pense que c'est ça qui a fait aussi ma force parce que la cérémonie d'ouverture m'a tellement donné d'énergie, tellement fait du bien que ça a été un moment magique avec moi, avec Samir, avec tous les autres sportifs. J'ai adoré. C'était un moment de fête avant l'heure et ils m'ont donné de l'énergie pour ma compétition. Je les remercie énormément.
Clarisse Agbenienou qui était dans On refait les Jeux avec Jean-Michel Rascol et Marie Portolano hier soir. Parmi les autres faits marquants de la matinée, la qualification du nageur français Maxime Grousset qui participera la nuit prochaine à la finale du 100 mètres nage libre. Retour sur l'ensemble des résultats de cette matinée dans le journal des Jeux, ce sera dans moins d'une dizaine de minutes.
Dans 10 minutes, on est connecté avec Tokyo, hein, avec nos champions olympiques de la nuit, donc nos champions d'aviron. Restez à l'écoute. Il est 7h03, un braquage insolite avec un butin impressionnant à Paris.
Ça s'est passé dans une prestigieuse bijouterie tout près des Champs-Élysées. L'attaque n'a duré que quelques minutes, Nathan Bocard.
C'est en milieu d'après-midi qu'un homme arrive seul à trottinette devant la bijouterie Chaumet. Il entre dans la boutique, visage découvert et brandit une arme de poing. Sous la menace, les employés lui remettent des bijoux et des pierres précieuses pour un butin estimé entre 2 et 3 millions d'euros. Le braqueur prend ensuite la fuite, toujours à trottinette. Une scène visiblement sans violence. Dans les restaurants voisins, les employés disent n'avoir rien entendu, ni cri, ni coup de feu. Arrivés rapidement sur place, les policiers se sont mis à la recherche d'un homme d'une quarantaine d'années. L'affaire est confiée à la brigade de répression du banditisme. Les enquêteurs vont se baser sur les témoignages des employés de la bijouterie, mais aussi sur les images des caméras de surveillance, celles situées dans la boutique d'abord, mais aussi dans les rues du quartier. Le but étant de retracer le parcours du fugitif.
Le récit de Nathan Bocard pour RTL. Rachida Dati contre-attaque. L'ancienne ministre de la Justice mise en examen dans l'affaire Carlos Ghosn se défend ce matin dans une interview au Parisien. Elle estime que les juges tentent d'entraver son engagement politique alors qu'elle envisage de se présenter à une primaire de la droite pour 2022. Rachida Dati est soupçonnée notamment d'avoir fait du lobbying pour l'ancien patron du groupe Renault-Nissan alors qu'elle était encore députée européenne.
On en vient, Alexandre, à cette forte baisse de la fréquentation dans les lieux concernés par le pass sanitaire.
Cinéma, musée, parc d'attractions, une semaine tout juste après la mise en place du pass sanitaire, les clients se font rares. Virgile Caillet représente les salles de sport. Il appelle le gouvernement à ne surtout pas supprimer les aides d'urgence.
On a eu une baisse de fréquentation de plus de 40%, donc mécaniquement une perte de chiffre d'affaires considérable. Et puis ensuite, près de 10% d'augmentation des résiliations, avec des réactions extrêmement violentes sur les réseaux sociaux ou même dans les salles, hein, où plusieurs salles ont dû faire appel aux forces de police. Et j'ajouterais que nous sommes dans une situation totalement dramatique puisque beaucoup de nos enseignes n'ont pas encore touché les dispositifs de coûts fixes des mois de janvier-février. Nous sommes réouverts, plus de chômage partiel, les charges qui reviennent au maximum. Donc c'est intenable. Il convient de revoir les dispositifs d'aide. Il y avait une dégressivité prévue cet été. Et puis effectivement, les poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois de septembre pour accompagner les entreprises jusqu'à leur reprise. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu la reprise.
Situation dramatique des propos recueillis par Nerissa et Mani pour RTL. Alors on attend avec impatience la réponse de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie peut-il rassurer ses professionnels? Il nous le dira sur RTL ce matin. Bruno Le Maire à 7h45. Le pass sanitaire qui pourrait être étendu dans les restaurants et les bars à partir du 5 août. Ça va de fait limiter la fréquentation, mais la campagne de vaccination accélère.
Avec un nouveau record la semaine dernière, 4,7 millions d'injections. Désormais, un Français sur deux est complètement vacciné. En parallèle, les contaminations continuent d'augmenter avec 27 000 nouveaux cas hier. Les entrées en réanimation commencent légèrement à remonter. Pour encourager les Français, le ministre de la Santé lui-même, Olivier Véran, a vacciné sa collègue du gouvernement, la secrétaire d'État Olivia Grégoire, enceinte de 5 mois.
Se faire vacciner est bien sûr un droit dans notre pays, mais je crois que c'est devenu aujourd'hui un devoir. En tant que femme, d'abord et avant tout, j'ai bien compris une chose, c'est que la grossesse ne me protège en rien de ce virus qui est la Covid, mais que le vaccin m'en protège. Il est aujourd'hui très clair que nous pouvons nous faire vacciner dès le premier trimestre. Je le fais pour me protéger, bien sûr, mais je le fais d'abord et avant tout pour protéger le petit être qui est à l'intérieur de moi, puisque la Covid crée de lourdes complications, peuvent mettre en danger, bien sûr, la maman, mais principalement l'enfant à venir. C'est donc un message très simple, vaccinons-nous, et surtout quand on est enceinte.
La secrétaire d'État, Olivia Grégoire.
Au programme de ce mercredi, un dernier conseil des ministres, Alexandre, un petit peu spécial avant la coupure estivale.
Emmanuel Macron est actuellement à l'autre bout du monde, en Polynésie française. Il va présider ce conseil en visioconférence. Les vacances du gouvernement vont ensuite pouvoir commencer, mais difficile de lever le pied en pleine crise sanitaire. Cette année encore, les ministres ont reçu des consignes assez strictes. William Galibert.
Oui, une circulaire a été envoyée à tous les ministres. RTL se l'est procurée. Elle indique qu'ils doivent rester joignables et choisir, je cite, une destination compatible avec leurs responsabilités. Ça sera en clair un mois d'août en France. Bruno Le Maire est attendu comme d'habitude au Pays Basque. Roselyne Bachelot aussi sera dans le Sud-Ouest. L'autre coin à la mode, c'est la Corse où Marlène Schiappa ou encore Elisabeth Borne, la ministre du Travail, prendront leur quartier. Mais on a connu des ambiances plus joyeuses avant de partir en vacances. Un conseiller ministériel résume les choses sans chichi. Il avoue, on se prépare à un été pourri. Quatrième vague, variant Delta, vaccination, Olivier Véran, le ministre de la Santé, espère pouvoir s'éclipser quelques jours en Provence, mais il va continuer les déplacements de terrain, tout comme le porte-parole Gabriel Attal, qui sera de sortie entre deux escales près d'Ajaccio ou dans le Luberon. Et signe que tout est envisagé, même le pire, deux conseils de défense sanitaire sont déjà dans les tuyaux pour ce mois d'août. Emmanuel Macron les dirigera en visioconférence depuis le fort de Brégançon.
William Galibert du service politique de RTL. Les États-Unis durcissent le ton face à l'épidémie de variant Delta. Les autorités sanitaires américaines vont imposer à nouveau le masque dans les écoles à la rentrée pour tous les élèves, même ceux qui sont vaccinés. Les Européens, notés, sont toujours interdits d'entrer sur le territoire américain.
Et puis Alexandre, après le scandale mondial du logiciel espion Pegasus, eh bien Israël tente de déminer le terrain.
C'est une entreprise israélienne qui avait conçu ce programme accusé d'avoir infiltré les téléphones portables de très nombreuses personnalités, dont notamment le président français Emmanuel Macron. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz est cette semaine à Paris. Officiellement, il vient informer les autorités françaises des derniers développements de l'enquête. Stéphane Amar.
La visite était prévue de longue date. Emmanuel Macron et Benny Gantz devaient s'entretenir du chaos libanais et du nucléaire iranien. Mais entre-temps, l'affaire NSO Pegasus a provoqué un scandale planétaire et elle devrait occuper une bonne partie des conversations entre les deux hommes. Le ministre de la Défense israélien a promis d'apporter des éclaircissements au président français, car selon les révélations du Monde, le Maroc aurait utilisé le logiciel israélien pour espionner un des téléphones portables d'Emmanuel Macron. Israël se retrouve dans l'embarras car l'autorisation de vendre le logiciel Pegasus à plusieurs régimes autoritaires a été validée au plus haut niveau de l'État. Le Parlement israélien a mis en place une commission d'enquête afin d'examiner les responsabilités du gouvernement. Quant à l'entreprise NSO, elle dément farouchement toute intrusion dans un téléphone d'Emmanuel Macron.
Le correspondant de RTL en Israël, Stéphane Amar. Un mot de football pour terminer. Le défenseur des Bleus, Raphaël Varane, quitte le Real Madrid pour Manchester United. On ne connaît pas encore le montant de son transfert. Enfin, Bordeaux va accueillir un nouvel entraîneur, Vladimir Petkovic, actuel sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il succède à Jean-Louis Gasset.
Et puis, avis aux amateurs de chevaux et aux parieurs, les courses, c'est à Enghien aujourd'hui.
Avec les pronostics de Jordan Philippi, As 4, 14, 6, 13, 3 et le 2, la dernière minute, c'est le numéro 4, Vagabond Bi.
Vagabond Bi,
oui, c'est ça.
Son petit nom.
C'est ça,
bon,
Bi, tout simplement.
C'est noté. Merci Alexandre, à tout à l'heure, à 8h. Vous avez tout, absolument tout à disposition sur l'appli RTL.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Et c'est une plongée dans les secrets de la fabrication du numéro 1 mondial de la boule de pétanque que Raphaël Vantard nous propose ce matin. Car depuis 1955, Aubut assure sa production dans une petite commune du Forez. 2000 habitants à 800 mètres d'altitude. Bienvenue à Saint-Bonnet-le-Château, au cœur d'une entreprise qui a revu son processus de fabrication. Moins de pollution pour faire face aux préoccupations écologiques. Raphaël, du coup, on vous suit sur place.
66 ans d'existence. Elle domine le village de Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire. L'usine de boules de pétanque au but est entourée de forêts, de verdure et d'un léger petit brouillard les jours d'hiver. C'est Romain Sauvigné qui nous accueille. Il incarne la troisième génération de la famille à reprendre le flambeau d'une production de triplettes qui a toujours voulu rester en France.
Bonjour.
Bonjour. Alors, moi, je suis Romain Sauvigné, La Boule au But, donc directeur général de la société. 100% des boules de pétanque La Boule au But sont fabriquées ici. C'est à Saint-Bonnet-le-Château depuis maintenant 1955. On a cru au fait de rester en France, on a cru au Made in France et du coup on est toujours là et ça roule pour l'instant.
Alors je vous suis, on va visiter tout ça.
Nous voilà au cœur du sujet. On va retrouver toutes les étapes de fabrication les unes après les autres, où on part d'une barre en acier qu'on va découper et qu'on va ensuite déformer, forger jusqu'à obtenir une coquille et souder les deux coquilles et ensuite l'usiner dans des tours, la polir et la satiner.
Une boule de pétanque, c'est toujours deux coquilles qu'on assemble, quoi.
Si on avait une boule pleine, on aurait une boule qui ferait 2 kg, 2 kg 500. Là, on est sur une boule d'environ 700 grammes en moyenne.
Alors on est un peu plus au calme, là on va emballer toutes les triplettes. Dès le départ, les trois boules vont jamais se quitter, quoi.
On démarre vraiment avec des lopins, on va les assembler, on va faire ces coquilles. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on les a pesées et qu'elles sont dans la goulotte, 700 grammes par exemple, trois mêmes boules vont se suivre jusqu'à la fin.
Ceux qui ne se voient pas dans ces boules bien rangées dans la sacoche avec leur cochonnet, c'est qu'elles sont aujourd'hui beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Il y a quelques mois, l'entreprise a terminé une transition écologique devenue indispensables.
On avait du zinc, on avait du nickel et on avait du chrome. Ces produits ont été plus ou moins interdits dans certains secteurs. Plutôt que de poser un dossier pour avoir une continuité, on a préféré en sortir et changer notre méthodologie. Avec aussi un système de refroidissement circuit fermé, donc plus de pollution d'eau. On se retrouve face à une planète qui nous montre qu'elle souffre par le biais de tempêtes, de catastrophes climatiques. Pour nous, on est un sport, un jeu qui est loisir. On se doit d'être proche de la nature. On est à Saint-Monnet-le-Château, à 800 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on se doit de respecter ce qui entoure l'usine.
À la sortie de l'usine, comme une évidence, plusieurs terrains s'alignent pour que chacun puisse tester et se faire la main sur ses boules de pétanque. Laurent regarde sa triplette de compétition comme un enfant à qui on vient d'offrir un jouet.
Alors moi, les boules, moi j'ai pris des 720 au but. J'ai pris des listes parce que moi, je tire. Du moins, j'essaye en tout cas. Le toucher, la prise en main, aujourd'hui, franchement, c'est quelque chose qui fait la différence. On achète des boules un peu sur mesure, hein, en fonction de notre main, en fonction de savoir si c'est un tireur ou pointeur. Et ça nous permet effectivement d'avoir une boule appropriée. Alors, surtout notre jeu, pour pouvoir crier quand on tape la boule.
Une fois testée, voici la triplette de boules bien rangée dans le coffre de la voiture, prête à être sortie presque n'importe où, dans un boulodrome, un jardin, sur un parking ou à l'ombre d'arbres sur la place d'un village.
Donc du coup, ça fait quoi? 4-0? Ah, on va peut-être commencer la partie alors.
Un été en France dans le Forez. Dans l'entreprise Obud, c'est du Made in France avec Raphaël Vantard. Un été en France, c'est tous les matins de cet été, vous le savez, sur RTL. 7h15, on file à Tokyo dans un instant parce que si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux, il y a une bonne nouvelle ce matin. Nous avons une médaille d'or supplémentaire avec un duo de choc en aviron. Des vrais copains, ils sont connectés depuis le Japon juste après ceci.
RTL à Tokyo.
Tokyo, les Jeux Olympiques, l'actualité de la nuit avec la 5e journée de compétition et de moisson des médailles. On va filer donc au Japon pour rejoindre, et vous le comprenez avec la Marseillaise, nos champions olympiques. Sachez-le, nous avons deux gars en or sacrés en aviron, en deux de couple. Ils sont connectés depuis Tokyo, Mathieu Androdias, Hugo Boucheron, bonjour, bonjour et bravo.
Bonjour, merci beaucoup.
Ah, merci.
Est-ce que vous arrivez à réaliser avec quelques heures de recul ce qui vous arrive là?
Bon, non, on verra ce soir. Si on réalise. Non, oui. Donc, on commence à lire un petit peu les messages et tout là qu'on a reçus. Mais oui, ça vient doucement, ouais.
La médaille, c'est du concret, peut-être. La médaille autour du cou, cette belle médaille d'or que vous portez en ce moment.
Ouais, c'est du concret. Elle est lourde, hein. Elle est lourde. Et puis, dans tous les sens du terme, elle est lourde parce que c'est une médaille qu'on est allé chercher entre potes. Elle est lourde parce que il y avait du monde avec nous dans le bateau aujourd'hui, même si on s'est retrouvé que deux à tenir les rames. Bah, tout le clan était là, quoi. Tous ceux qui nous ont aidés, nos partenaires, tout le monde. Et elle fait réaliser quand même. Et j'ai hâte de la ramener.
Ouais, et de partager tout ça avec tout le monde, justement, ici en France. Hugo, au moment de la Marseillaise tout à l'heure, c'est pas rien, une Marseillaise olympique. Vous avez pensé à qui précisément?
C'est un peu trop perso, hein. Désolé.
Alors, Hugo, je tente ma chance vers Mathieu, peut-être.
Ouais, moi je. En fait, j'ai d'émotion là qui arrive, qui est trop fort pour moi, quoi. Donc c'est vrai que ça monte énormément parce qu'on prend la mesure de tout le chemin. Les galères aussi, parce qu'on s'est construit comme ça, mais aujourd'hui, finalement, avec la médaille dans la main, je me dis que c'était un passage obligatoire, quoi. Ça donne beaucoup de sens, ouais, à toute la route qu'on a faite ensemble. Et puis, je pense évidemment à mes proches, quoi. Tout le monde qui s'est levé et qui est en stress depuis une semaine et qui dort plus. J'ai tout de suite pensé à eux. Je me dis, tiens, en m'imaginant un petit peu la fiesta qui est en train de se passer en France, quoi.
Ouais. Et pourtant, cette finale, cette course en particulier, elle a pas été terrible techniquement, hein. Pardon, mais c'est vous qui l'avez dit après, justement. D'avoir gagné.
Ouais, c'était pas la course parfaite. Mais ça tombe bien parce qu'on s'était dit avant de monter, on peut gagner sans faire la course parfaite. Donc finalement, on le vit bien. Alors c'est sûr, pour les puristes, on va dire qu'on n'était pas dans la très grande technicité comme on aime aussi nous le faire. Mais là, il fallait prendre des risques aujourd'hui. Il fallait être agressif, il fallait être engagé. Et puis, je pense que si on avait ramé joli, si on avait fait les choses belles, ben on serait peut-être pas champion olympique, quoi. Donc moi, j'ai pas trop de regrets là-dessus finalement.
Ça veut dire quoi, Hugo, que c'est avec l'envie et les bras que ça s'est fait?
Les jambes, parce que en aviron il faut pousser fort avec les jambes, un petit peu moins avec les bras. Mais ouais, c'était à l'envie, on était un peu en mode chien de la casse.
Quand vous avez franchi la ligne, vous étiez certain d'être premier, d'avoir gagné ou pas? Parce que ça a été chaud avec les Pays-Bas et la Chine, hein.
Les Néerlandais, ouais, moi je savais pas trop. En plus, on était un peu dans le dur, donc je demande à Matt. Et puis finalement, on a eu rapidement le résultat là sur le panneau. Là. Quand Matt il me dit on a gagné, je fais bah ok, ça marche. Mais ouais, on se rend pas trop compte.
Vous êtes un peu comme Clarisse, la reine du judo. Hein. Vous avez tout désormais, champion du monde, champion d'Europe et là l'or olympique, Mathieu. L'or olympique.
Ouais. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était encore un rêve. Hein. C'était encore une étoile au loin. Et puis on a construit et c'est sûr que on était comme tous les jeunes rameurs avec des posters de nos grands champions des Olympiades précédentes. Et puis on rêvait quoi. On rêvait. Et puis un jour on s'est mis en mouvement. On est allé se confronter. On a connu beaucoup d'échecs. Hein. Je pense que ça il faut vraiment. J'ai vraiment envie de l'appuyer parce que quand on vise haut c'est vraiment des. C'est des passages obligés, quoi. Donc, ils sont pas agréables, mais ils nous ont vraiment permis d'aller chercher plus de ressources, d'aller chercher plus loin à chaque fois, quoi. Et puis, champion d'Europe, on se dit, ah, tiens, c'est pas si loin, champion du monde. On y est, quoi. On peut faire partie de ces athlètes-là. Aujourd'hui, pour nous, c'est le Graal. Hein. En aviron, c'est au-dessus de tout.
Et c'est au-dessus de tout. Pourquoi, Hugo? Pourquoi c'est plus qu'un titre de champion du monde?
Comment dire? La prime, c'est pas la même. Déjà ça, non, je déconne. C'est la plus belle récompense en tant que sportif. C'est le plus gros événement du monde. C'est toutes ces choses. C'est un titre, c'est un rêve qui se réalise. Quoi. C'est quelque chose qui était un peu au sommet de notre montagne. Voilà.
C'est au-dessus de tout, on l'entend bien avec vos propos ce matin. C'est un sacré coup de projecteur sur votre sport aussi, hein, Mathieu Androdias. Cet aviron là qui nous ramène des médailles régulièrement, c'est quoi? C'est beaucoup d'entraînement.
Ouais, c'est sûr que si je vous parlais de mon sport comme je le vis au quotidien, ce serait pas forcément une bonne pub parce que c'est très besogneux, c'est des heures d'entraînement l'hiver quand il fait zéro. Il y a jamais un moment donné où ça s'arrête. C'est pas de vacances depuis des années. On a tout mis quoi. On a tout mis dans ce projet et puis nos proches avec. Tout le monde nous a soutenu dans cette voie-là et forcément quand on prend ce chemin et qu'on attrape l'étoile au bout, c'est immense, j'ai du mal à le décrire, mais c'est sûr, c'est un sport très très besogneux, très dur physiquement, hein. C'est quand même un effort physique qui va très loin et c'est aussi du bonheur entre amis quoi. Parce que là on a construit une histoire magnifique qui est gravée pour toujours, donc on a vécu là ces années-là un condensé de vie avec énormément d'émotions.
C'est bien résumé. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous ce matin sur RTL. On vous félicite une nouvelle fois. Médaille d'or aux Jeux Olympiques pour nos champions d'aviron, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Merci à tous les deux depuis Tokyo.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
Et encore bravo. Hein. Ça nous fait de l'or cette nuit pour la délégation française. Quentin Vasselin, on en est à 8 médailles. Pour le reste, il y a une déception qui n'en est pas vraiment une. Il n'y aura pas de médaille aujourd'hui pour le judo français. Hein.
Une première depuis le début de ces Jeux Olympiques. Mais Axel Clerget, battu dans la catégorie moins de 90 kilos par le numéro 2 mondial, n'était pas forcément attendu sur le podium. Pareil pour Margot Pinault, éliminée dès le premier tour en moins de 70 kilos.
La natation, la grosse perf de la nuit pour Maxime Grousset.
Finale olympique du 100 mètres pour le nageur de 22 ans, né en Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu le Graal pour un nageur. Un gros soulagement pour l'étoile montante des bassins français.
Comme hier, j'ai eu peur, voilà. Ça fait peur les Jeux. Dernière place en embuscade. Ah, rien du tout, ouais. Apple ne passe pas, Minakov, Stekon. Enfin, plein de nageurs. Et là, je vais faire partie de cette finale olympique, je suis vraiment content. On peut espérer plein de choses. On est en finale, là maintenant, c'est là, on joue sa place.
Maxime Grousset au micro de nos confrères de France Télé. Il a fait le 8e temps, il sera dans le couloir extérieur. Pas facile, mais bon, la finale est prévue demain à 4h30. On va le soutenir et il faudra se lever tôt avec un petit café.
Évidemment, les cours de tennis, c'est Hugo Humbert qui défie en ce moment une montagne grecque.
Oui, le Français affronte Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial, finaliste à Roland-Garros. Et pour le moment, le score est de 6-2 pour Tsitsipas dans la première manche. 3 partout, balle de 4-3 pour Hugo Humbert sur son service. Le Français est pas trop mal, il n'est pas trop décroché. On attend aussi Jérémy Chardy, match abordable contre Liam Brody, le Britannique.
Du cyclisme avec peut-être notre seule chance de médaille du jour.
Rémi Cavagna, 25 ans, rêve d'un podium dans le contre-la-montre. L'Auvergnat est champion de France 2020 de la spécialité. Départ prévu à 9h05. Chez les femmes, Juliette Labou termine 9e.
Et puis grosse journée pour les sports collectifs masculins.
Victoire obligatoire pour les Bleus du foot, emmenée par un Gignac de gala. Hein. Déjà 4 buts, dont 3 dans le dernier match. Un grand André-Pierre Gignac dans ce tournoi. La France doit battre le Japon par au moins 2 deux buts d'écart pour assurer une place en quart de finale. En basket, coup d'envoi à 14h de France République Tchèque après leur exploit contre les États-Unis. Handball, France-Allemagne à 14h30, troisième match de poule pour les joueurs de Guillaume Gilles. Enfin, ça va démarrer dans quelques instants. La France défie l'Argentine en volet. Les Bleus chassent une première médaille olympique dans l'histoire de leur sport.
Et verdict tout ça, merci Quentin Vasselet sur notre antenne, sur RTL bien sûr, tout au long de la journée. Le rendez-vous du soir, vous le connaissez, c'est On refait les Jeux, 18h30, 19h, avec Marie Portolano et Christian Olivier en ce mercredi. 7h24, la musique comme promis, la pépite à suivre. À tout de suite.
Stéphane Carpentier, RTL. RTL Matin,
Stéphane Carpentier.
L'indispensable pépite musicale pour bien se réveiller avec Anthony Martin. Bonjour à vous.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et nous sommes toutes, oui.
Alors, il y a 50 ans, sortait ce disque.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Histoire de Melody Nelson, album signé Gainsbourg avec l'arrangeur Jean-Claude Vanier. 28 minutes de musique, une seule histoire, poésie rock et raffinée, mariage époustouflant, de la pop et du classique. Tout ça a fait un objet non identifié, boudé au départ par le public, hein. Puis un album qui est devenu absolument culte aujourd'hui, y compris la pochette sur laquelle Jane Birkin, qui ne porte qu'un jean, serre son singe en peluche contre sa poitrine pour cacher son début de grossesse parce qu'elle attendait Charlotte. On sait aujourd'hui que Serge Gainsbourg a eu du mal à écrire les paroles de l'album. Il y a travaillé jusqu'à la dernière minute. Il avait exploré plusieurs pistes. Il avait même envisagé à un moment donné de faire évoluer son personnage de Melody Nelson, telles les héroïnes Martine ou Bécassine. Mm-hmm. On aurait eu droit à Melody au zoo, au sport d'hiver, dans l'espace. Cette piste n'a jamais abouti, mais il reste un enregistrement de cette phase de travail, une maquette d'une minute sur laquelle Serge Gainsbourg avait gravé une ébauche de ce qu'aurait pu être une des aventures de Melody, intitulée Melody lit Babar, l'éléphant vert. C'est notre pépite du jour, Serge Gainsbourg. Chante Melody lit Babar.
Melody lit Babar, l'éléphant vert, dont le chasseur a tué la maman. Hi, hi, pleure Melody, tout là-bas la montagne est rose. Melody lit Babar, l'éléphant vert, etc. Babar, l'éléphant vert, dont le chasseur a tué la maman. Hi, hi, pleure et mélodie, tout là-bas la montagne est rose.
Voilà, c'est incroyable, incroyable, ce document de travail resté inédit pendant 40 ans. On le trouve dans les bonus de la réédition 2011 du disque Histoire de Melody Nelson.
La pépite musicale sur RTL, Anthony Martin. Au poste, les grosses têtes dès 15h30 cet après-midi avec les temps forts de la saison, version Laurent Ruquier, le rire avant tout.
Vous regardez à faire conclure.
Non mais je l'ai vu, j'ai regardé à cause de Sophie.
Ou grâce.
Ah, elle est belle, elle est belle.
Les nuits sont interminables, les moments sont tristes, et brutalement, un morceau de lumière, c'est Sophie qui apparaît.
Oh,
blondeur charmante, perdue dans les marchands, et avec tous les vieux qui arrivent vendre des merdes. Incroyable qu'ils n'ont pas osé vendre tant que maman était vivante. Parce que maman l'avait eu pour sa communion, ou bien c'était le matin que maman avait hérité de maman. Donc, tu vois,
c'est ça, ouais.
Le mec, il a enlevé les 4 kilos de poussière et il arrive avec un vase dans lequel j'interdirais à mon chien de chier dedans tellement il est gâteau.
Laurent Ruquier, ses grosses têtes, 15h30, 18h, et le podcast, évidemment, jour et nuit. N'hésitez pas sur l'appli RTL. Le temps du jour, Anthony, on a Clémence qui est connectée depuis Amiens sur notre compte Twitter, ou Sylvie qui est avec nous depuis le nord de la Seine-et-Marne. C'est couvert dans le nord de la Seine-et-Marne, il n'y a pas de soleil à l'horizon.
Et en plus, je vous avais promis hier un temps sec pour aujourd'hui, et bon, c'est pas totalement ça. On a quelques averses qui circulent encore ce matin dans le nord-ouest, et puis un petit front pluvieux orageux qui est en train de nous quitter. Entre le Gard, la région Rhône-Alpes et le Jura, il va rapidement
enfiler vers les frontières suisses et italiennes. Mais donc partout ailleurs, la traditionnelle alternance nuages, éclaircies, averses. Averses surtout entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France ce matin. Et ces averses pourraient déborder un tout petit peu vers l'Île-de-France en cours d'après-midi. Mais en tout cas, en région parisienne, on retrouvera un peu de soleil ce matin. Ça fera du bien après la terrible journée d'hier. Le ciel sera un peu chargé entre le Pays Basque et les Pyrénées. Et on ne pourra pas non plus là-bas exclure une averse. Et puis évidemment, entre le sud de la vallée du Rhône et le littoral de la Méditerranée.
Classique.
Exactement, ce sera du soleil et de la chaleur. On aura encore 31 degrés à Marseille, 32 à Ajaccio. Et puis ailleurs, ce sera toujours aussi frais. Avec 19 à Cherbourg et Boulogne-sur-Mer, 20 degrés à Brest, 21 pour Lille et pour La Rochelle, 23 à Reims et Nancy, 24 degrés à Paris. On gagne quand même 5 degrés par rapport à hier. Il n'avait fait que 19 degrés hier. 25 à Bordeaux et Toulouse et 26 pour Strasbourg.
Un bazar votre ciel en ce moment. Bienvenue tout le monde. Nous sommes mercredi le 28 juillet. Il est pile 7h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et à 7h30, toute l'actualité, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Avec notamment le grand casse-tête du pass sanitaire.
Une semaine après sa mise en place, beaucoup de responsables de cinéma ou encore de centres de loisirs fustigent le dispositif, alors que dans les centres commerciaux, c'est le préfet qui aura le dernier mot. Elle dénonce des tentatives d'entrave à son engagement. Rachida Dati est mise en examen dans le cadre de l'affaire des prestations accordées à Renault-Nissan du temps de Carlos Ghosn. Et puis au JO, un troisième titre olympique cette nuit avec de l'aviron. Au lendemain du sacre de Clarisse Agbegnéno, on tentera de percer le secret du club de Champigny-sur-Marne qui a déjà vu deux de ses étoiles enfiler une médaille à Tokyo.
RTL Matin.
Une semaine après son entrée en vigueur, plusieurs responsables, Hortense, vent debout actuellement contre le pass sanitaire.
Il est déjà en place dans les cinémas, les parcs d'attractions et beaucoup voient leur chiffre d'affaires diminuer depuis 7 jours. Début août, il pourrait être demandé à l'entrée des centres commerciaux, mais tout dépendra de la décision des préfets. Une application à géométrie variable que dénonce Gontran Turing, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux.
C'est une mesure qui est à la fois impraticable et puis inéquitable. Il faudrait placer deux vigiles à chaque entrée d'un centre commercial pour effectivement respecter cette mesure. Ça représenterait un surcoût de 30 000 euros par porte d'entrée, plus les queues qui pourraient se constituer à l'extérieur. Donc tout ce que nous recommandons, c'est comme pour l'attestation de déplacement, un contrôle aléatoire qui est effectué par les forces de police. On voit que les cinémas et les parcs d'attractions ont enregistré des baisses conséquentes de fréquentation et donc de chiffre d'affaires depuis l'instauration du contrôle du pass sanitaire. Et donc, bon, il est probable que ça soit la même chose pour les centres commerciaux, parce qu'il y a encore 40% de la population française qui n'est pas vaccinée. Or, les achats dans les centres commerciaux, c'est quotidien et donc ces personnes-là ne pourront pas fournir un test PCR tous les 48 heures.
Gontran Turing, délégué général du CNCC avec Nerissa Imani. Le pass sanitaire qui ne sera pas obligatoire avant le 30 septembre pour les 12-17 ans. Pour les plus jeunes, pas besoin. Et près de Lille, certains doivent d'ailleurs prendre leur mal en patience et s'occuper comme ils peuvent en ce moment. À Vambrechy, 3 centres de loisirs ont dû fermer à cause d'une vingtaine de cas de Covid chez des enfants et leurs animateurs. C'est la douche froide pour les parents qui doivent donc s'organiser, Franck Hanson.
Dans ces centres aérés nordistes, les contraintes sanitaires sont pourtant strictes. Des groupes d'enfants qui ne se mêlent pas entre eux portent du masque dès 6 ans, mais la petite Elsa a dû rentrer chez elle.
On ferme tous les centres aérés à cause du coronavirus. Là, je peux plus retourner.
L'un des enfants aurait été contaminé le dernier jour d'école. Au total, une vingtaine de cas recensés, dont deux animateurs. La mairie a dû gérer en urgence, mais c'est un crève-cœur pour toutes les équipes, déplore Valérie Bogart, la responsable du pôle jeunesse à Vambrechy.
Tous les protocoles ont été respectés ici à la lettre, mais on ne vit pas avec les gens, on ne peut pas tout contrôler. C'est une frustration, c'est une colère et un sentiment d'impuissance. Tout s'est arrêté en l'espace d'une demi-heure. Nous, on est restés avec des projets qui étaient en route, notamment des spectacles de marionnettes pour lesquels les animateurs ont travaillé pendant 3 semaines.
Et les parents comme Antoine, papa de jeunes enfants, ont dû trouver des solutions de repli.
C'est la petite qui allait au centre et au bout d'une semaine, on lui dit on arrête tout. Donc elle est un peu triste. Hein. C'est toute une organisation, des jumeaux qui ont 2 ans, la petite 5 ans. C'est sûr qu'on pensait que c'était fini, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Plus on ne peut rien faire.
Le centre qui accueille les plus grands n'a pas été touché pour l'instant. Les autres sites pourraient rouvrir la semaine prochaine avec de nouvelles équipes.
Reportage de Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord.
Dernier conseil des ministres du gouvernement avant le départ en vacances.
Il sera présidé par Emmanuel Macron dans son avion qui le ramène de Polynésie où il termine un voyage officiel. Dans un discours à Papeete, le président a notamment imploré les habitants à se faire vacciner. Il était aussi très attendu sur la question toujours vive là-bas, celle du nucléaire.
Je vais vous dire très franchement les choses. Je pense que c'est tout à fait vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. On l'a fait ici, parce que c'était plus loin, On l'a fait ici, parce qu'on se disait, c'est perdu au milieu du Pacifique. Ça n'aura pas les mêmes conséquences. C'est vrai. Est-ce que j'aurais fait autrement si j'avais été à la place de ceux qui ont alors décidé ? Je suis incapable de vous le dire. Incapable. Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc aussi vrai que je vous dis que je pense qu'il est bon pour la France et pour nous que nous soyons dotés de l'arme nucléaire. Dans le concert des nations face à des puissances dangereuses, je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française.
Macron en Polynésie, où la France a mené des essais nucléaires pendant 30 ans avant d'y mettre fin en 1996, était au micro de notre envoyé spécial Jacques Seret. C'était l'un des fidèles de François Truffaut dans L'argent de poche ou La nuit américaine. L'acteur Jean-François Stévenin s'est éteint à 77 ans. Second rôle important du cinéma, il avait aussi joué devant la caméra de Jacques Rivette et réalisé trois films, notamment Passe-Montagne.
Et on part au Japon pour les JO.
RTL à Tokyo.
Et de 8 pour la France, un troisième titre olympique cette nuit avec un 2 de couple qui a glissé sur l'eau pour emmener Hugo Boucheron et Mathieu Androdias au sommet en aviron. Première bonne nouvelle donc pour la France ce matin. Sur le tatami par contre, les judokas français n'ont pas poursuivi sur la bonne lancée après la médaille d'or de Clarisse Agbenienou hier, Isabelle Langer.
Il n'y aura pas de médaille aujourd'hui et les larmes d'Axel Clerget à 34 ans, le sociétaire de Sucy Judo dans le Val-de-Marne qui disputait ses premiers JO, n'est pas passé loin d'un quart de finale en moins de 90 kilos. Il s'est en effet incliné au Golden Score face au néerlandais Noël Van Den Ende. Et désillusion aussi pour Margot Pinault en moins de 70 kilos. La championne d'Europe 2020 s'est inclinée dès son premier combat de la journée face à la grecque Telsidou après avoir reçu 3 pénalités pour non-combativité. Pinault avait été préférée pour ces Jeux Olympiques à Marie-Ève Gaillet, championne du monde 2019.
Isabelle Langer en direct de Tokyo pour RTL. Sale journée donc pour le judo français, mais ce matin, une ville se réveille bien avec les yeux dorés, c'est Champigny-sur-Marne. C'est là qu'a été formée celle qui est devenue hier championne olympique de judo chez les moins de 63 kilos, notre porte-drapeau Clarisse Agbenienou. Mais c'est bien au Red Star Club de Champigny que s'entraîne également Amandine Bouchard qui a décroché la médaille d'argent chez les moins de 52 kilos. Alors la question qu'on peut se poser, quel est le secret du club où poussent tous ces champions, Julien Fautra ?
Eh bien voici la réponse du président du Red Star Club Champigny, Philippe Sudre.
Le secret, ce sont nos valeurs humaines qui font que nos athlètes se sentent bien chez nous. Et bien entendu, un staff qui est au plus près des athlètes et qui ne les lâche pas quand ça ne va pas. Par certains côtés, des fois, un peu la seconde famille, le club est la seconde famille et on a des
exemples. Ils sont des dizaines, enfants, ados ou bénévoles, à rester ici des années, même les anciens champions ou championnes. Véronique Diebolt a été judoka en équipe de France et a gardé sa licence au club.
Un club familial, un club humain, c'est pas une écurie. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Champigny et effectivement, c'est la deuxième famille, c'est qu'on y reste attaché. La preuve, c'est que beaucoup de championnes qui ont arrêté leur carrière restent quand même licenciés au club. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un passage dans un club qui laisse pas indifférent.
Agbenienou, c'est même la troisième médaille dans l'histoire du club. L'habitude désormais de sabler le champagne, même comme hier, à des horaires matinaux.
Julien Fautra à Champigny-sur-Marne pour RTL. Et puis à 18h30, ce sera On refait les Jeux avec Marie Portolano et Christian Olivier. Enfin en football, à 10 jours de la reprise du championnat de Ligue 1, les Girondins connaissent le nom de leur nouvel entraîneur. Le club repris récemment par Gérard Lopez se sépare de Jean-Louis Gasset. Et c'est Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'équipe nationale suisse depuis 7 ans, qu'il remplace. Une annonce faite sur les réseaux sociaux avec une vidéo rappelant à Stéphane l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale par la Nati. Comme quoi il ne faut pas être rancunier.
Absolument. Merci Hortense Crépin. Toute l'actualité, c'est quand vous le souhaitez, 7h38, vous allez sur l'appli RTL.
RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
Et l'Anglais Éco, c'est avec Anaïs Bouissou. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Ce matin, le secteur des loisirs, cinéma, théâtre est inquiet avec une activité qui a drastiquement baissé depuis une semaine et la mise en place du pass sanitaire. Le but du pass sanitaire, c'était de protéger la santé et l'économie. Est-ce qu'au contraire, il ne risque pas de tuer les perspectives économiques en empêchant les gens de consommer ?
Attention, prudence. C'est vrai qu'on pourrait s'inquiéter si on met sur le même plan les chiffres encourageants de ces dernières semaines. 6% de croissance attendue, reprise des embauches, baisse du chômage. Et là, d'un coup, depuis quelques jours, la chute de fréquentation dans les cinémas. Moins 45%. C'est sûr que si on mélange tout ça, on peut craindre le pire. Mais attention au miroir grossissant des inquiétudes. Ce qui vaut pour une semaine, ce qui vaut pour quelques secteurs ne remet pas forcément en question la dynamique plus large de l'économie. Il est les statistiques de l'INSEE, de la DARES et de la Banque de France.
Donc vous dites que le pass sanitaire n'aura pas d'effet négatif.
Il faut rester prudent, hein, évidemment. Vous avez vu que depuis 18 mois, les certitudes sont régulièrement remises en question. Mais il y a deux raisons qui permettent de penser que globalement, le pass sanitaire en soi ne fera pas de casse. Première raison, les secteurs concernés, culture, loisirs, puis dans quelques semaines, hébergement, restauration notamment, tous ces secteurs, ils représentent moins de 10% des richesses créées. C'est important, hein, s'ils vont mal, c'est inquiétant, mais ça ne fait pas toute l'économie française. Il y a 90% de richesses créées par ailleurs, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le numérique, et qui devraient continuer de tourner.
Voilà pour la première raison. La deuxième ?
Deux, il faut voir au-delà d'une première semaine, avec le temps et l'augmentation de la vaccination, on peut espérer que les gens s'habituent à montrer leur QR code et que la consommation de culture, de loisirs, rentre petit à petit dans l'ordre. C'est ce qui s'est passé avec les trois confinements. Printemps 2020, on a tout fermé, on a eu une baisse drastique de l'activité économique, moins 30%. Deuxième confinement, on était déjà plus qu'à moins 11%. Et enfin, au printemps 2021, confinement certes beaucoup moins strict, mais seulement 5% de baisse d'activité. Vous voyez, il y a eu un effet d'apprentissage. L'économie, c'est aussi de la psychologie. Les mesures entrent dans les mœurs et les consommateurs s'y habituent malgré tout. Il y a fort à parier que ce sera pareil pour le pass sanitaire.
Je veux bien Anaïs, mais en attendant, le responsable d'un cinéma qui a une salle vide, c'est compliqué de lui dire « ne vous inquiétez pas, les gens vont s'habituer. »
Oui, c'est vrai. C'est pour cette raison que les aides de l'État restent indispensables pour l'été et à la rentrée. Des aides pour compenser les éventuels manques à gagner du pass sanitaire, mais des aides aussi et surtout pour compenser les effets de la quatrième vague de Covid.
Donc, il y a bien un risque pour l'économie, mais ce n'est pas le pass sanitaire si je vous suis bien.
Oui, tant que le vaccin ne sera pas suffisamment déployé, mais ce n'est pas uniquement une situation française, c'est un constat mondial. Les obligations de pass sanitaire ou de vaccin se déploient au Danemark, en Autriche, partiellement en Allemagne, bientôt en Italie, même aux États-Unis où le président réfléchit à un vaccin obligatoire pour certains personnels. Et pour l'économie, hier encore, le Fonds monétaire international a été très clair, il y a un énorme fossé qui se creuse entre les pays qui mobilisent massivement vaccins et plans de relance et les autres. Que ce soit grâce à un pass sanitaire n'est agréable pour personne, mais cela semble montrer une certaine efficacité. On avait mis sous cloche l'économie pour protéger la santé. Désormais, être en bonne santé sera le seul moyen de faire repartir l'économie.
Voilà, tout est dit, tout est clair. C'est signé Anaïs Bouissou, L'Angle Écho, tous les matins. Cet été, il est 7h41. Justement, on va voir ce que nous en dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Il est notre invité ce matin. Il nous rejoint dans une poignée de secondes. Il est 7h42.
RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info. Sucré. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Merci de nous rejoindre, 7h43, l'invité de RTL Matin en direct et en studio en ce mercredi 28 juillet. Et donc le ministre de l'économie, bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Stéphane Carpentier.
L'entrée en vigueur de l'extension du pass sanitaire, Bruno Le Maire, le 21 juillet dernier, met nombre de secteurs dans la difficulté, on les entend depuis hier. On parle beaucoup des cinémas, des musées, des théâtres, des parcs d'attractions, des salles de sport également, qui voient leur fréquentation chuter. Les clients désertent ces lieux de loisirs, ils enregistrent en 8 jours des chutes de fréquentation de 20, 40, 50%. Et du coup, ils lancent un SOS. Est-ce que vous pouvez les aider ?
Bien sûr. D'ailleurs, nous les aidons. Et je veux rassurer tous ces professionnels. Je recevrai tout à l'heure avec Rosine Bachelot les directeurs de théâtre, de cinéma, de salles de spectacle pour faire le point avec eux. Mon ministre délégué au PME a reçu également les représentants des parcs de loisirs pour leur passer des messages très simples. Nous sommes toujours là, nous l'avons été depuis le premier jour de la crise, il y a maintenant 14 mois. Nous avons maintenu les aides. Les aides sont maintenues au mois de juin, juillet, août. Le fonds de solidarité est toujours actif. L'aide pour l'emploi est toujours présente également. Donc nous avons maintenu les aides pour les secteurs qui sont touchés. Et à la fin du mois d'août, le lundi 30 août, pour être tout à fait précis, je recevrai l'ensemble des secteurs auxquels un pass sanitaire est imposé. Je pense aux restaurateurs, je pense aux bars, je pense évidemment au secteur de la culture. Et nous verrons avec eux quelles sont les pertes de chiffre d'affaires. Et nous prendrons les décisions nécessaires pour les aider. Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit dans cette crise. Le choix que nous avons fait avec le président de la République et le Premier ministre il y a maintenant plus d'un an, c'est de protéger tous ceux qui ont à souffrir directement des conséquences de la crise sanitaire. C'est de protéger tous ceux qui enregistrent des pertes de chiffre d'affaires parce qu'il y a moins de clients, parce que la situation est difficile. Et c'est de compenser les pertes qui peuvent être liées à des règles sanitaires qui sont contraignantes et dont nous mesurons parfaitement qu'elles sont contraignantes. Vous savez, si on pouvait se passer d'obligations supplémentaires, on serait tous très satisfaits. Mais le pass sanitaire est une protection pour ces entrepreneurs, pour ses activités, parce qu'il permet d'éviter une nouvelle vague de pandémie.
C'est une protection, mais est-ce que ça ne va pas freiner automatiquement notre économie qui repartait ?
Je ne crois pas. Je vous dis, moi, mon évaluation, l'économie française redémarre très fort. Nous aurons les derniers chiffres du trimestre à la fin de la semaine. Mais je regarde aujourd'hui les prévisions de l'OCDE, celles de l'INSEE, celles de la Banque de France, celles du FMI et du Fonds monétaire international qui sont tombées hier et qui prévoient plus 5,8% de croissance pour la France en 2021. Donc la réalité, c'est que l'ensemble de l'économie française aujourd'hui redémarre très vite, très fort, parfois même trop fort, au point qu'on a des tensions très fortes sur le recrutement, trouver des salariés dont on a besoin. Et sur les matières premières, on n'arrive pas à trouver du bois, de l'acier, notamment dans le domaine du bâtiment et de la construction. Et puis, il y a effectivement un certain nombre de secteurs. Je pense à tout ce qui est tourisme, événementiel, hôtellerie, café, restauration, où dans certains territoires, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir encore des pertes de chiffre d'affaires. Et c'est bien pour ça, Stéphane Carpentier, que nous avons pris la décision de maintenir les aides, de ne pas les retirer brutalement, et d'avoir ce rendez-vous le lundi 30 août. Je donne rendez-vous à tous les professionnels concernés pour faire le point avec eux.
J'entends déjà ces professionnels qui sont fortement impactés par cette décision, ce pass sanitaire, dire « ça ne nous suffira pas, ces aides du gouvernement ».
Elles ont suffi dans le passé.
Mais là, ils sont en priorité. C'est en ce moment qu'ils font leur beurre pour l'ensemble de l'année, vous le savez.
Bien sûr, mais je constate aussi que dans beaucoup de restaurants, dans beaucoup de territoires français, on a des chiffres de reprise qui sont très bons. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en difficulté, je leur dis, bénéficiez du Fonds de solidarité. Allez demander l'aide du Fonds de solidarité, nous l'avons maintenu. Et à tous ceux qui s'inquiètent en disant le pass sanitaire finalement va remettre en cause ma saison, je pensais qu'elle allait être très bonne, elle va peut-être être un peu moins bonne que prévu, bien je leur dis rendez-vous le 30 août. Et c'est pas une clause de revoyure simplement, c'est faire le point avec eux, regarder les pertes de chiffre d'affaires secteur par secteur. Je vois que les salles de sport par exemple sont très inquiètes. Nous regarderons par rapport à 2019 quelles sont les pertes de chiffre d'affaires qui ont été enregistrées. Et comme nous avons répondu présent depuis le début de cette crise, depuis le premier jour de cette crise, nous répondrons aussi présent à la fin de l'été pour ceux qui auront été impactés.
Bruno Le Maire, éclairez-nous concrètement sur les grands centres commerciaux, parce qu'on n'a pas tout compris, qui seront dispensés de passe sanitaire, sauf sur décision, dans certains cas, du préfet. C'est quoi les modalités concrètement ? Qui va pouvoir entrer et comment ?
Concrètement, les centres commerciaux peuvent être obligés d'avoir un pass sanitaire. Ils peuvent, mais ça n'est pas une obligation générale. Et ce sera au préfet de décider au cas par cas. Moi, j'invite évidemment les préfets à faire preuve du plus grand discernement en la matière. Le texte de loi est très clair. Il faut qu'il y ait un risque sanitaire qui soit avéré. S'il y a un risque sanitaire avéré, dans ce cas-là, le préfet peut décider de mettre en place un pass sanitaire. Mais dans l'immense majorité des cas, je pense que ça ne sera pas nécessaire.
Vous pensez bien qu'on peut s'interroger quand on laisse tranquille les grands centres commerciaux alors qu'on embête, entre guillemets, les cinémas ou les restaurants. On va devoir avoir le pass sanitaire pour aller manger une salade en terrasse, avoir un pass pour aller voir un film, mais on peut aller tranquillement dans un centre commercial.
Pour les centres commerciaux, faut bien mesurer concrètement ce que ça veut dire. Vous sortez de la gare Saint-Lazare, vous rejoignez le Parvis, c'est des millions de personnes qui sont concernées, ils traversent un centre commercial. Vous voyez bien que ça pose des difficultés d'application pratique qui sont très importantes. Donc nous regardons à chaque fois l'application pratique. Dans les restaurants, c'est différent. Vous vous asseyez, vous retirez votre masque. Donc la contamination peut être beaucoup plus forte et les restaurateurs jouent le jeu. Et je redis à quel point tout cela a été décidé dans le dialogue et dans l'écoute. Et ça a été notre ligne de conduite gouvernementale permanente. Je donne juste un exemple pour les restaurateurs. Ils étaient inquiets en disant « nous, on veut bien contrôler le pass sanitaire ». Et ils l'ont fait avec beaucoup de responsabilité. Ils se sont engagés. On ne veut pas contrôler l'identité de la personne qui nous présente son pass sanitaire. Nous avons décidé que ça ne serait pas le restaurateur qui contrôlerait l'identité du client qui présente son pass sanitaire. Il n'a pas à contrôler la pièce d'identité, c'est compliqué. Puis ça n'est pas sa responsabilité. Donc je crois que nous avons essayé de faire le plus attention possible aux contraintes très concrètes de mise en œuvre de ce pass sanitaire. Protéger les Français, oui, les gêner dans leur vie quotidienne, ça n'est évidemment pas notre objectif.
Bruno Le Maire, la vaccination concernant les employés qui refuseraient le vaccin. On avait compris que finalement, ils n'avaient pas à craindre de licenciement qui serait mis sur la touche et pas payé. Et puis hier, on a entendu la ministre du Travail laisser entendre qu'il pourrait y avoir licenciement quand même. C'est quoi la réalité là ? Ça paraît un peu flou l'histoire ?
Avec Elisabeth Borne, nous voulons éviter qu'il y ait des licenciements, bien entendu. Ouais. Surtout dans une période où les chiffres du chômage s'améliorent, grâce à la reprise économique, où il y a des tensions sur la main-d'œuvre, le licenciement ne peut être que le tout dernier recours. Et c'est précisément ce qu'il faut éviter, le licenciement.
Donc il pourrait y en avoir quand même.
D'abord, ils ont jusqu'au 30 août ces salariés des établissements qui reçoivent du public pour pouvoir disposer du pass sanitaire. Et ensuite, qu'est-ce que je recommande ? Le dialogue. Les chefs d'entreprise, ils dialoguent avec leurs salariés. Les patrons de PME, de TPE, ils dialoguent avec leurs salariés. Le patron d'un bar, d'un café, d'un restaurant, ils dialoguent tous les jours avec ceux qui font le service, ceux qui font la restauration. Et c'est ce dialogue qui nous permettra de trouver des solutions. Moi, je souhaite qu'il n'y ait aucun licenciement. Je vous le dis comme je le pense. Je crois que c'est à ça que nous devons parvenir. Ça doit être des cas uniquement isolés. Il faut dialoguer, passer par la conviction, par l'explication, par la discussion, beaucoup plus que par la contrainte.
Alors le dialogue, il en faut en ce moment, il faut beaucoup de pédagogie et ça râle quand même pas mal dans notre pays. Il y a des manifestations tous les week-ends, les anti-vax, les anti-pass sanitaires. On a l'impression de se retrouver un petit peu à l'époque gilet jaune. Est-ce que vous pensez, Bruno Le Maire, que ce sont les mêmes qui prolongent la grogne ?
Vous savez, moi je ne suis pas sociologue, mais même si la météo n'est pas très clémente actuellement, je garde un esprit résolument positif. Et ce que je vois, c'est que la majorité des Français désormais est vacciné. Et que ce vaccin qui faisait peur à beaucoup, parce que c'est quelque chose de nouveau, convainc un nombre croissant de Français. Que beaucoup de Français ont fait preuve d'un immense sens des responsabilités et qu'il y a un sens des responsabilités collectif. L'immense majorité du peuple français est allé se faire vacciner et continue à se faire vacciner pour garantir notre sécurité sanitaire collective. Et je veux saluer cet état d'esprit. Après, il y a toujours des personnes qui résistent, qui sont inquiètes. Là aussi, je pense qu'il faut convaincre sans relâche. Regardez le taux d'acceptation des vaccins il y a encore 6 mois. Il était beaucoup plus faible. Il a monté en flèche. Donc, il ne faut jamais cesser de vouloir convaincre, expliquer, répondre aux craintes, répondre aux peurs. Je pense que c'est comme ça qu'on parviendra à cette protection globale de la population française contre un virus qui, je le rappelle, tue et laisse des séquelles chez beaucoup d'entre nous.
L'économie repart, vous nous dites ce matin encore, ce matin Bruno Le Maire, ça se confirme, hein, il y a moins de chômeurs, ça a été annoncé hier. On va se relever de ce qu'on a vécu économiquement, le tout sans demander des efforts particuliers aux Français, et j'entends financiers bien sûr.
On va s'en relever d'ici le début de l'année 2022, c'est toujours le cap que j'ai fixé, retrouver le même niveau d'activité qu'avant crise au début de l'année 2022. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie pour retrouver début 2022 le même niveau d'activité qu'en 2019. Ensuite, le vrai défi, une fois qu'on aura réussi la protection, c'est fait, réussi la relance, c'est en cours d'être réussi, ça va être de relancer la machine économique française sur les 10, 20 ou 30 prochaines années. Ça va être l'objet du plan d'investissement que présentera le président de la République à la rentrée et qui doit nous permettre justement de prendre le relais de la relance pour garantir que la France reste parmi les grandes nations économiques de la planète au 21e siècle.
Un plan de relance de combien de milliards d'euros ?
Alors, ce sera d'abord de l'investissement, pas de la relance. La relance, la différence entre la relance et l'investissement, c'est que la relance, c'est tous azimuts, c'est tout secteur. Ça a un côté très large, volontairement, pour que ça redémarre très vite et très fort. L'investissement va être ciblé. Il va être ciblé sur quelques secteurs technologiques avancés. Je ne vais pas donner de chiffres sur les montants, ce qu'on va en discuter avec le Premier ministre et avec le Président de la République, mais ce sera ciblé sur les technologies qui vont permettre d'accélérer la décarbonation du pays, je pense par exemple à l'hydrogène, sur des technologies qui sont vitales pour notre indépendance économique, je pense aux semi-conducteurs, ou sur les technologies qui sont très importantes pour la société française, je pense par exemple aux biotechnologies. Ce sera fait également en accord avec nos partenaires européens, parce qu'il faut qu'il y ait des partenariats européens, et ça doit permettre, je le redis, à la France de continuer à jouer dans la cour des grands au XXIe siècle.
Et le verdict de tout ça, ce sera à la fin du mois d'août. Donc,
ce sera à la fin du mois d'août. Je remettrai des propositions au président de la République
dans les prochains jours.
D'ici la fin de la semaine, pour être tout à fait précis.
Dernier conseil des ministres ce mercredi avant une pause accordée aux membres du gouvernement. Vous avez eu des consignes du président Macron ? Pas trop loin ? Restez en contact ?
On aura les consignes tout à l'heure quand nous aurons eu le conseil des ministres.
Vous avez déjà eu une circulaire, non ?
Un ministre est en activité 365 jours sur 365. En tout cas, disponible pour les Français 365 jours sur 365.
Ce sera le Pays Basque pour vous, vous confirmez ?
Ce sera le Pays Basque en espérant qu'il sera un peu moins pluvieux que ce que me prévoit notre voisin de droite.
Et je crois que ce n'est pas gagné, malheureusement. Merci Bruno Le Maire de nous avoir accompagné ce matin. Ministre de l'économie, entretien bien sûr à retrouver sur l'appli RTL. 7h55 dans un instant, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini.
RTL pour décrypter l'info. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini.
Notre surfeur de l'actualité qui pose sa planche cet été, il répond aux questions de saison et tout est permis.
Bonjour, c'est Pierre, 70 ans. Je voudrais savoir pourquoi il y a des plages de sable et des plages de galets.
Ah, et bien ça, c'est une affaire de géologie. La géologie, c'est la science qui étudie la terre, les roches, parce qu'en fait, les plages sont faites de petits bouts de rochers. Donc la composition de la plage dépend des rochers de la région. Exemple, en Normandie, l'une des plages les plus connues de France, à Étretat. Les falaises d'Étretat, elles sont ancrées. Quand la pluie, le vent, les vagues attaquent ces roches, la craie se dissout et libère des galets qui, avec les vagues, finissent par arriver sur la plage et forment donc une plage de galets. D'autres roches, en revanche, comme le granit en Bretagne, se transforment en sable. Après, en fonction des roches, il y a des sables plus ou moins fins, plus ou moins clairs. Les plages de sable noir, comme il y en existe en Grèce par exemple, sont faites de roches volcaniques. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, la plage, qu'elle soit de sable ou de galets, n'est que le résultat de la désagrégation, de l'érosion des rochers de la région, entraînée par les rivières, les fleuves, charriés par la pluie. Ces rochers, plus ou moins gros, finissent dans la mer et deviennent des plages. Mais le processus est long, très long. Le sable que vous pouvez fouler aujourd'hui sur les différentes plages françaises a été mis en place il y a 3 ou 4 000 ans. Alors bien entendu, il y a aussi des petits bouts de coquillages ou d'infimes bouts de verre polypes qui par exemple viennent se mêler à ce très vieux sable. Mais globalement, il est en place depuis très très longtemps. Et si vous vous demandez pourquoi en France métropolitaine, on n'a pas ce sable de carte postale. Vous savez, ce sable blanc très fin et très léger qu'on voit parfois dans les films, c'est parce que celui-là, il vient de l'érosion des coraux et que nous, ici, on n'a pas de barrière de corail. Après, il est, paraît-il, tellement fin qu'on s'en met partout, qu'il colle entre les doigts de pied et que c'est l'enfer pour s'en débarrasser. En gros, on rate pas grand-chose finalement, preuve qu'une nouvelle fois, les choses ne sont pas si mal faites.
C'est bien dit, Cyprien Sini en version estivale. Les pourquoi de l'été, c'est tous les matins sur RTL. 7h58, le temps du jour. Tiens, réponse à monsieur Bruno Le Maire, le ministre. Le Pays Basque, ça nous dit quoi ?
C'est pas top. Aujourd'hui, ça devrait rester chargé. Vous ne verrez pas le soleil au Pays Basque aujourd'hui, ni d'ailleurs sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne. C'est dans ces régions que là, le ciel restera couvert toute la journée. Partout ailleurs, ça va nettement s'améliorer quand même par rapport à hier, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Vous devriez rester au sec entre la Gironde, le centre, l'Auvergne et la Bourgogne-Franche-Comté, avec donc de très larges éclaircies. En Île-de-France, ce sera plutôt agréable ce matin, dès que les quelques nuages là qu'on a actuellement se seront dissipés. Mais malheureusement, quelques averses vont revenir en cours d'après-midi. Averses qui, déjà ce matin, vont concerner la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France et la Lorraine. Et donc ces averses vont glisser jusqu'en Île-de-France en cours d'après-midi. On a quelques orages ce matin qui concernent le Languedoc, le Gard, qui abordent les Bouches-du-Rhône, mais ils vont rapidement se diriger vers les Alpes et donc devraient quitter le territoire vers midi ou 14h en tout début d'après-midi. Et donc, après ces orages, vous retrouverez du soleil entre la vallée du Rhône et surtout le pourtour de la Méditerranée. En revanche, les températures, c'est toujours aussi frais. On part de 19 degrés à Cherbourg au meilleur de la journée aujourd'hui pour aller jusqu'à 32 à Nîmes et Ajaccio. Vous aurez 31 à Marseille et Toulon, 30 à Perpignan et Bastia, 27 à Nice, 26 à Strasbourg, mais seulement 25 à Bordeaux et Toulouse, on pourrait en espérer 28 à 30 en cette saison, 24 à Paris et Besançon, 23 à Reims et 21 pour Lille.
19 degrés à Cherbourg, à Saint-Malo, 23 à Reims, on se régale.
C'est formidable.
Formidable. C'est mercredi, bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux sur RTL, vous avez fait le bon choix, tout va bien, il est 8h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et c'est toute l'actualité, le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et de Troyes, troisième médaille d'or pour les Français grâce à un duo de choc en aviron.
Mathieu Androdias et Hugo Boucheron remportent le titre olympique. Les deux rameurs français avaient déjà été sacrés champions du monde et champions d'Europe. Dans ce journal également, un dernier conseil des ministres aux accents polynésiens avant le début des vacances. Un bilan inquiétant pour la première semaine du pass sanitaire. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie sur RTL, assure aux entreprises pénalisées, nous répondrons présents, je cite. Une reprise du tourisme assourdissante pour les voisins des aéroports parisiens et puis un curieux cimetière flottant pour des voitures volées dans les Bouches-du-Rhône.
RTL à Tokyo.
Ils étaient favoris, ils ont répondu présent. Hein. Les Français Mathieu Androdias et Hugo Boucheron ont remporté la médaille d'or en aviron.
Dans le 2-2 couple, ils ont même battu le record olympique devant les Pays-Bas et devant la Chine. Et pourtant, Mathieu Androdias assure qu'ils ont raté leur course.
Ouais, c'était pas la course parfaite, mais ça tombe bien parce qu'on s'était dit avant de monter, on peut gagner sans faire la course parfaite. Donc finalement, on le vit bien. Alors c'est sûr, pour les puristes, on va dire qu'on n'était pas dans la très grande technicité comme on aime aussi nous le faire. Mais là, il fallait prendre des risques aujourd'hui. Il fallait être agressif, il fallait être engagé. Et puis, je pense que si on avait ramé joli, si on avait fait les choses belles, ben on serait peut-être pas champion olympique, quoi. Donc moi, j'ai pas trop de regrets là-dessus finalement.
Mathieu Androdias, qui était l'invité de RTL tout à l'heure. Ça faisait 17 ans que des Français n'avaient pas remporté cette épreuve. C'est donc la troisième médaille d'or pour les Français à Tokyo, après le titre en judo hier remporté par Clarisse Agbenienou. 8 médailles au total pour les Bleus à cette heure-ci. Autre bonne nouvelle de la nuit au Japon, le nageur français Maxime Grousset s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre. Ce sera demain. Et puis à noter également un abandon très remarqué dans la compétition chez les Américains, la superstar de la gymnastique Simone Biles, Isabelle Langer.
Oui, trop de pression due à son statut, celui d'être la tête d'affiche de la délégation américaine et dont on n'attendait pas moins de 6 médailles d'or ici à Tokyo. Parfois, j'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules, écrivait Simone Biles lundi sur les réseaux sociaux. C'est déjà un appel à l'aide, comme les prémices de ce qu'il s'est passé hier. Elle a décidé d'abandonner cette équipe américaine dans le concours général et c'est justement pour ne pas tomber plus bas, pour ne pas se blesser aussi, afin de préserver ses chances dans le concours individuel que la jeune femme de 24 ans a donc jeté l'éponge. Et je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et mon bien-être, a-t-elle expliqué à la presse avant de confier qu'elle doit traiter avec ses démons dans la tête, des démons qui lui font craindre de ne plus être l'impératrice d'une discipline qu'elle a amenée à des sommets jamais égalés, des démons aussi qui s'appellent Larry Nassar, cet ancien médecin de l'équipe féminine de gym qui a été condamné à plusieurs centaines d'années de prison pour avoir abusé sexuellement de plus de 500 jeunes femmes et adolescentes, parmi lesquelles Simone Biles, la championne est aujourd'hui la seule des victimes de Nassar encore en équipe nationale. Elle sait que sa voix porte et qu'elle a encore un rôle à jouer dans ce scandale.
Isabelle Langer, envoyée spéciale à Tokyo pour RTL.
Incroyable scénario, hein. Les JO Tokyo, bien sûr, à retrouver ce soir dans Refait les Jeux. C'est avec Marie Portolano et Christian Olivier. 18h30, 19h, j'ai deux résultats en cours à vous communiquer. D'abord, les volleyeurs français, ils mènent face à l'Argentine un 7-0. Et puis, il y a un 7 partout côté tennis entre Hugo Humbert et le grec Tsitsipas. Un 7 partout, la suite, bien sûr, sur RTL dans les prochaines minutes. Emmanuel Macron reconnaît la culpabilité de la France après les essais nucléaires en Polynésie française.
Le chef de l'État est en visite sur place. Il s'est exprimé il y a quelques minutes. La France a une dette, je cite, envers la Polynésie française. Les victimes doivent être mieux indemnisées. Et en même temps, Emmanuel Macron assume, c'était un choix fort et utile du général de Gaulle. La France a mené de nombreux essais nucléaires dans le Pacifique entre 1966 et 1996. Jacques Serret, vous êtes sur place pour RTL. Le discours du chef de l'État vient de se terminer. Emmanuel Macron, qui va présider aujourd'hui depuis la Polynésie française, un dernier conseil des ministres avant la pause estivale.
Oui, depuis son avion, la 330 présidentielle est spécialement équipée. L'avion dispose de liaisons à haut débit et peu importe où il se trouve dans le ciel, l'appareil est en mesure de rester en contact avec le monde extérieur. Le chef de l'État pourra donc tout à l'heure et survoler l'océan Pacifique et présider le Conseil des ministres. Un conseil dans les airs, en visioconférence, ce sera une première. À Paris, les ministres devront quand même se rendre à l'Élysée autour de Jean Castex pour être connectés au président. Les membres du gouvernement ne verront donc pas une dernière fois leur patron avant de partir en vacances, même si de toute façon elles ne partiront pas très loin. Consigne leur a été donnée via une circulaire de rester joignable et de choisir, je cite, une destination compatible avec leurs responsabilités. En clair, ce sera pour eux un mois d'août en France. On a connu des ambiances plus joyeuses avant de partir en vacances. Un conseiller ministériel résume les choses sans chichi. Il avoue, on se prépare à un été pourri. Quatrième vague, variant Delta, vaccination, tout est envisagé au sein de l'exécutif. Deux conseils de défense sanitaire sont même dans les tuyaux pour ce mois d'août. Emmanuel Macron les dirigera en visioconférence, mais cette fois depuis le fort de Brégançon.
Jacques Sauré, envoyé spécial en Polynésie française pour RTL.
Une semaine après l'extension du pass sanitaire aux lieux de culture et de loisirs, la mesure, Alexandre, a toujours du mal à être acceptée. Hein.
Exemple, au parc d'attractions Walligator, près de Metz, en Moselle, le directeur Laurent Muller s'est fait agresser par un visiteur dont le pass sanitaire n'était pas valable.
J'étais devant pour accompagner mes équipes et j'étais en train de contrôler le pass d'un monsieur. Malheureusement, son passe étant non valide, je lui ai dit qu'il ne pourrait pas entrer. Donc il a commencé à hausser le ton, à me dire qu'il était vacciné deux doses et depuis plus de 7 jours. J'ai refait le test, c'était toujours négatif. Il est parti en me tutoyant et en me devenant insultant. Puis une deuxième fois en étant ordurier, outrancier. Donc directement, il m'a saisi à la gorge, il m'a soulevé d'une seule main. Je touchais plus terre et là, il m'a envoyé valser au sol contre des barrières Vauban. Et quand on lui a dit que j'appelais directement la gendarmerie, il s'est calmé, il a accepté de revenir dans la salle de réunion des bureaux. J'ai porté plainte. Moi, je me remets des entorses, ecchymoses et des douleurs qui persistent. Donc, ce sera vu en justice au mois de février l'an prochain. Que le gouvernement comprenne bien qu'aujourd'hui, c'est nous qui assumons des rôles qui ne sont pas les nôtres dans le contrôle. Mais il ne faut plus jamais que ça se produise.
Des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. Et conséquence du pass sanitaire, certaines entreprises ont été pénalisées, leur fréquentation est en chute libre. Nous répondrons présent, assure le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il était l'invité de RTL il y a quelques instants. Un nouveau record pour la campagne de vaccination avec 4,7 millions d'injections la semaine dernière. C'est du jamais vu et le ministère de la Santé espère faire encore mieux cette semaine et la prochaine. Désormais, un Français sur deux est complètement vacciné avec les deux doses, alors que l'épidémie, elle, reprend de plus belle. Avec 27 000 contaminations en 24 heures, les entrées en réanimation remontent légèrement avec près d'un millier de patients en soins intensifs.
8h07, vous restez bien là. Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour vous parler d'une nouvelle application smartphone pour simplifier justement le contrôle du pass sanitaire. A tout de suite.
RTL Matin.
La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Pouvoir contrôler un pass sanitaire sans avoir besoin d'une pièce d'identité.
C'est le concept d'une application smartphone en cours de développement. Elle s'appelle QuickPass. Elle pourrait simplifier la procédure alors que de nombreux gérants d'établissements n'ont pas le droit de contrôler les pièces d'identité, Sophie Jousselin.
Oui, l'idée, c'est d'être sûr que lors d'un contrôle, le pass sanitaire que vous présentez est bien le vôtre, que vous ne trichez pas. Pour cela, vous devrez procéder en amont à une pré-vérification de vos documents. Jean-Louis Revol est président d'ID3 Technologies, une des entreprises qui travaille sur ce projet.
La pré-vérification consistera donc à faire une vérification par rapport à un document d'identité, que ce soit le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire, de scanner avec le téléphone les deux faces de ce document, lesquels on va extraire le nom, le prénom, la date de naissance et la photo. On fera la même chose avec le pass européen. On comparera ces éléments. Si ces éléments sont cohérents, on en déduira qu'effectivement, on a un affaire à la même personne.
Une fois cette opération réalisée, vous recevrez un nouveau QR code lors d'un contrôle au restaurant, au cinéma ou à la salle de gym.
Le vérificateur verra uniquement votre photo et une coche qui dit verte ou rouge.
La technologie est au point, prête à être utilisée à une condition.
Disons qu'il faut un feu vert. On ne va pas développer l'application si effectivement personne ne la veut. Il faut que le politique prenne la décision de le faire et on le fera.
La personne qui effectuera le contrôle n'aura accès à aucune information personnelle.
Sophie Jousselin pour RTL.
Et puis avec les vacances d'été, on note une reprise assourdissante du trafic aérien.
Oui, pour ceux qui habitent à proximité des aéroports, ils ont pu goûter au silence depuis le début de la crise sanitaire. Mais les avions ont, ça y est, repris leur balai depuis quelques mois maintenant. Reportage à Maison Lafitte, dans les Yvelines, une ville qui se trouve sous le couloir aérien de Roissy-Charles de Gaulle, Zoé Pallier.
Toutes les 52 secondes, un avion survole le jardin de Micheline, plus ou moins haut et donc plus ou moins bruyant et dérangeant.
Quand on est installé tranquillement en train de bouquiner, ça n'arrête pas, vous voyez. Bon, voilà, ça vient de passer là.
Pendant le confinement, vous étiez plus tranquille.
Ah oui, oui, c'était reposant, oui, oui.
L'été a toujours été la pire des saisons, racontent ses voisines, 30 ans qu'elles vivent ici, et elles ne sont toujours pas habituées au bourdonnement des avions.
Ça me réveille, parce que ce sont les vols qui arrivent d'Asie, ce sont des longs courriers.
6 heures du matin, voilà. C'est très tôt, quoi.
Un bruit de fond devenu insupportable pour France.
J'arrive à la retraite, et moi, je n'entends pas avoir autant de raffus comme ça, à ne pas pouvoir laisser la fenêtre de mon séjour ouverte. Je vais vendre, et je pars.
Ça n'étonne pas vraiment Jacques Millard, le maire de Maison Lafitte.
Je ferme la fenêtre pour qu'on puisse parler sans élever la voix.
La ville est située sous un des couloirs aériens de Roissy-Charles de Gaulle.
Nous avons obtenu que les avions volent plus haut, d'environ 300 mètres, mais la géographie est immuable et nous survolons toujours, lorsqu'on prend l'avion, une fois sur deux, Maison Lafitte et sa région.
Maison Lafitte qui cumule les nuisances sonores puisqu'elle est proche d'une départementale et qu'une voie ferrée la traverse.
Le reportage de Zoé Pallier dans les Yvelines pour RTL.
Et après l'Île-de-France, direction le sud avec cet étonnant cimetière de voitures volées dans les Bouches-du-Rhône.
Un cimetière flottant dans un canal de Saint-Chamas où se trouvent quelques 700 véhicules. C'est un lieu bien connu des gendarmes qui tentent désormais de retrouver des indices sur place. Étienne Bauduit.
Inlassablement, les cinq gendarmes plongeurs sanglent par 8 mètres de fond les carcasses remplies de limon et de boue qu'une immense grue dépose ensuite sur le chemin de halage. Au fond, on trouve de tout, de la Twingo à la Maserati en passant par une camionnette d'artisans toute volée. Alors bien sûr, pour beaucoup, ce sont des arnaques à l'assurance, mais pour d'autres, on peut soupçonner des délits comme ce 4x4 dont l'avant est défoncé et qui pourrait bien avoir été une voiture bélier. Le lieutenant Sébastien Pussini, commandant la brigade fluviale et maritime de Martigues.
Hier, nous avons sorti de Mégane RS. On sait qu'il y a des réseaux de Mégane RS commis des faits dans les Bouches-du-Rhône et bien au-delà. Alors, il peut avoir du braquage, certes, mais souvent, c'est des vols dans des magasins la nuit où ils découpent, vous savez, au chalumeau l'entrée et ils chargent la voiture, ils partent à fond la caisse. Donc après, ils se garent, ils vident leur véhicule dans d'autres véhicules volés et cela, où ils les brûlent, où ils les jettent dans le canal en prenant soin d'effacer toute trace.
Et pourtant, et c'est une des spécificités de la brigade fluviale et maritime, ces plongeurs peuvent retrouver des indices dans ces véhicules immergés.
On a développé des méthodes de prélèvement d'ADN, de photographie d'empreintes, malgré la faible visibilité sous l'eau, absolument. Il y a un phénomène de lessivage, mais elle va en rester un certain temps. On peut retrouver sur ces voitures et c'est l'objectif.
Car grâce à ces indices, des enquêtes vont pouvoir être ouvertes et l'une d'entre elles concernera sans doute un vaste trafic de pièces détachées. Plusieurs dizaines de Clio blanches complètement désossées ont été retrouvées au fond du canal.
Un reportage édifiant d'Étienne Bauduit dans les Bouches-du-Rhône pour RTL.
Toute l'actualité de ce mercredi avec Alexandre de Saint-Aignan, il est 8h13.
RTL présidentielle. Le jour où j'ai dit oui.
C'est tous les mercredis de l'été, RTL vous emmène à la rencontre d'anciens candidats à la présidentielle pour vous raconter comment ils ont franchi cette étape. Le jour où j'ai dit oui, avec ce matin Noël Mamère, ancien député et maire de Bègle. Candidat pour les Verts une seule fois, c'était en 2002, d'abord rejeté par son parti. Il deviendra le sauveur des écolos. Et pour RTL, il a accepté de revenir sur ces quelques jours où il a dit non, puis oui, avant de se lancer Vincent Derosier dans la course à l'Élysée.
Il aurait pu ne jamais être le candidat des Verts. Noël Mamère n'a d'ailleurs pas dit oui, en tout cas, pas tout de suite.
J'ai commencé par dire non, avec cette phrase et ce mot qui m'a collé à la peau pendant longtemps, en disant que ma décision était irrévocable. En fait, j'avais gagné le premier tour de la primaire face à Alain Lipietz, et Alain avait dit, avec ses 26%, je gagnerai au deuxième tour. J'ai dit, mais t'es complètement malade, comment tu vas y arriver?
On attendait Noël Mamère, c'est finalement Alain Lipietz qui sera le candidat des écologistes aux prochaines élections présidentielles. Les militants verts ont créé la surprise en choisissant Alain Lipietz à 51%.
Je pense que j'ai été victime aussi d'une attitude des verts vis-à-vis de moi qui est très ambiguë. C'est cette espèce d'amour-haine.
Malgré l'amertume, Noël Mamère ne va pas disparaître des médias, d'autant que pour Alain Lipietz, la campagne tourne au calvaire.
Alain Lipietz, le candidat à la présidentielle, est une nouvelle fois revenu à la charge en réclamant une amnistie pour les crimes de sang en Corse. Il a été publiquement désavoué.
Les Verts n'ont plus de candidats pour les élections présidentielles. Cet après-midi, deux tiers des militants ont désavoué Alain Lipietz, qu'ils avaient pourtant désigné au printemps.
Qui sera le candidat à l'Élysée pour les Verts?
Et la réponse semble évidente, sauf que l'ancien journaliste a peur de ne pas être suffisamment soutenu et il se braque.
Le vendredi est sortie une interview à la Une du Monde Avec cette phrase, ma décision est prise, elle est irrévocable.
La petite phrase met le feu au parti écologiste. Noël Mamère, lui, est emporté dans une tempête médiatique et politique. Elle va durer 24 heures, les plus longues de sa vie.
Et les appels se multipliaient de mes copains qui me disaient « Tu peux pas faire ça, Noël, c'est pas possible. » Donc du coup, je somatise. Me voilà, très enrhumé, je reviens chez moi et donc je me couche pour essayer d'éponger ce trouble. Quand elle m'a vu arriver dans cet état, ma femme a bien compris que je pourrais pas tenir sur cet irrévocable. Et évidemment, le soir, quand je rallume mon portable, il était saturé. Dominique Voynet me demande de prendre le café avec elle. Et elle me dit, Noël, voilà, c'est très simple. Soit nous n'avons pas de candidat, soit tu y vas, même avec ton irrévocable qui va te pénaliser. Et j'étais l'invité le dimanche du journal de 20h. Et Béatrice Schoenberg qui me disait à peu près toutes les 30 secondes, oui, mais vous avez dit irrévocable, donc il a fallu que j'assume.
Noël Mamère, bonsoir. Donc votre décision était irrévocable de ne pas vous présenter. On peut donc être stupéfait, surpris de ce retournement total. Est-ce que vous prenez le risque de passer pour une girouette?
Oui, on peut dire qu'on a frisé la catastrophe et que moi, je suis entré dans le ridicule.
Les doutes sont maintenant derrière lui. Cette fois, il a dit oui et Noël Mamère y croit.
J'ai toujours eu une part d'inconscience dans ce que je fais. Il faut avoir une part d'inconscience pour décider de marier deux hommes dans sa mairie sans se soucier de savoir si on sera rejeté par les électeurs ou pas. Et moi, j'étais convaincu, mais alors c'est assez fou, que je ferais plus de 5%. Moi, je m'en voyais à 6 ou 7%. Bon, j'ai atterri à 5,25. Finalement, c'est pas si mal.
Le candidat écolo au-dessus des 5%, mais la fête, elle, n'aura pas lieu. Jean-Marie Le Pen est au second tour et Noël Mamère sur RTL est le premier à dire les choses.
Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire barrage à Le Pen, qui est l'homme de la xénophobie et de l'imposture.
Alors, près de 20 ans se sont écoulés, mais Noël Mamère n'a toujours pas digéré ce 21 avril 2002.
Ce score, il n'a servi à rien. Qu'a-t-on fait de ces 5,25%?
Pendant cette campagne, Noël Mamère a défendu le mariage pour tous, le droit à mourir dans la dignité, le vote à 16 ans ou la légalisation encadrée du cannabis. A-t-il des regrets aujourd'hui? Oui, avoir eu raison trop tôt.
Il y a eu un focus sur certains sujets qui paraissaient complètement extravagants à l'époque et qui aujourd'hui font l'objet d'un vrai débat de société. Et le dernier meeting de ma campagne des présidentielles, je l'ai fait au Cirque d'Hiver et j'avais à côté de mon estrade un joint d'un mètre de haut, alors que j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Alors des fois, j'en ai un petit peu de... pas de rancune, parce que je suis pas rancunier, mais je me dis quand même, on oublie vite qu'on a été les premiers à proposer tous ces sujets.
5 ans plus tard, il aurait aimé mener une deuxième campagne présidentielle pour les Verts, mais face à la détermination de Dominique Voynet, Noël Mamère s'efface. Il reste à ce jour le seul candidat écolo à avoir dépassé les 5% à la présidentielle.
Le jour où j'ai dit oui, tous les mercredis de l'été. Merci à Vincent Derosier du service politique de RTL. 8h18, dans un instant après la Vendée et le Pays Basque, le masque obligatoire fait son grand retour dans les rues de Gironde, Bordeaux, Arcachon, Lacanau. On en parle après ceci.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
Stéphane Carpentier.
RTL Matin jusqu'à 9h15.
Merci de votre fidélité. 8h18, nous allons sur la côte atlantique ce matin, en Gironde précisément, où nous attend le maire de la Teste de Buch. Bonjour Philippe Davé.
Patrick Davé.
Bonjour. Pardonnez-moi, Patrick, c'est beaucoup mieux d'ailleurs.
Patrick Davé.
Patrick Davé.
Philippe est joli aussi.
Merci d'être connecté en direct alors que votre département à son tour est rattrapé par le virus. Du coup, c'est le retour du masque à l'extérieur dans les zones touristiques. Avant de savoir, Patrick Davé, comment vous appréciez la décision préfectorale, je vous propose de nous rendre à Lacanau où là aussi les cas explosent en pleine vacances. Denis Grandjou est sur place avec le micro RTL face aux estivants. Denis, ça fait réagir. Hein.
Oui, pour certains vacanciers, cette mesure qui entre en vigueur ce matin ne va absolument pas changer leurs habitudes.
On n'en a rien à secouer.
Pourquoi ?
Oh, parce que ça nous...
Vous les mettez pas ?
Non, 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 pour l'instant, non.
Certains autres s'interrogent.
On nous a dit et redit 50 fois que quand on était dehors, surtout au grand air, comme ça, on risquait rien.
Alors... Il y a une directive, on la suit. Soit que, oui, on est peut-être en démocratie, comme vous allez dire. Mais bon, je dirais, s'il faut le refaire, on va le refaire. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, on subit, entre guillemets, voilà.
Laurent Perrondet, le maire de Lacanau.
Sur le centre-ville, bien sûr, on sera très très vigilant. Je pense que dans les premiers jours, on va faire beaucoup de prévention. Hein. Notre police municipale est amenée en saison à exercer beaucoup d'autres missions, donc ça ne sera pas sa mission première. Je pense qu'ils seront là aussi pour rappeler que le masque est obligatoire et que les gendarmes qui sont en grand nombre sur la station en ce moment feront passer le message et sauront faire preuve de toute la pédagogie possible.
Le maire et son équipe municipale qui vont durant tout l'été faire la promotion du vaccinodrome installé à Lacanau.
Merci Denis Grandjeau à Lacanau. Donc Patrick Davet à la thèse de Buch, environ 27 000 habitants. La population elle est multipliée par 10 pendant l'été. Monsieur le maire, est-ce que vous comprenez la décision prise hier par le préfet de votre département ?
Oui, je la comprends dans tous les cas et je la prends avec beaucoup de responsabilité. Je ne peux pas prendre le risque, si vous voulez, vis-à-vis de notre population qui a souhaité se faire vacciner puisque nous avions ouvert un vaccinodrome également avec mon voisin, la ville d'Arcachon, dont nous avons vacciné beaucoup de monde et nous continuons à le faire et à encourager les gens d'y aller. Et moi, je ne veux prendre aucun risque pour ma population parce que vous savez, après la saison, il y a une vie encore pour nous. Hein. Nous allons rester et je ne veux pas avoir de soucis.
Comment vous avez géré ça, monsieur le maire, avec vos habitants, avec les estivants, parce que hier, ils n'avaient pas de masque lorsqu'il se promenait. Aujourd'hui, il le faut.
Oui, tout à fait. Alors, attention, pour être précis, on nous oblige aujourd'hui les masques sur des lieux de rencontre. Mmh. C'est-à-dire que quand ils sont sur la plage, évidemment, on leur demande pas de mettre un masque. Mmh. Quand ils se promènent dans les rues ou en forêt, on ne demande pas de se mettre un masque. Ce sont sur des lieux de rencontre. Mais les gens le faisaient déjà. Il y avait une responsabilité dans les allées de extérieur ou intérieur du marché. Les gens mettaient le masque. Il y avait déjà une responsabilité. Donc aujourd'hui, les choses se passent bien, les gens l'acceptent. Il y aura des endroits où on devra, je prends un exemple, voyez, à côté de ma mairie, j'ai un grand terrain de boules où il y a les boulistes. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais leur demander à ces boulistes de porter le masque par l'intermédiaire de ma police municipale qui, comme le maire de Lacanau, M. Perrondet, n'a pas que ça à faire en cette période où effectivement, vous l'avez évoqué, nous multiplions par 10.
Ouais, vous constatez concrètement, vous, sur le terrain, dans vos rues, dans votre commune, cette reprise de l'épidémie?
Alors, écoutez, je veux pas faire peur à tout le monde, mais on sent, oui, bien sûr, nous avons des petits clusters ici et là, mais au niveau des hospitalisations, Dieu merci, ça n'augmente pas de façon considérable. Vous voyez, hier, par exemple, nous avions, si je me trompe pas, nous avions 5 hospitalisations, et les 5, ce sont des gens non vaccinés. Donc, je continue à dire aux gens, faites-vous vacciner. Moi-même, je le suis, comme tous les membres de ma famille, faites-vous vacciner.
Ils vont jouer le jeu, vos administrés, vos habitants et les touristes, oui, vous pensez? Parce qu'un touriste qui vient en vacances, on lui dit mettez le masque justement pour aller jouer aux boules ou alors acheter une glace. Compliqué, non?
Écoute, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr, mais je crois, j'ai cru comprendre quand même que la majorité des Français, puisque j'ai lu récemment que 76% des Français souhaitaient, sont favorables au vaccin, donc ce qui veut dire que les Français sont responsables, et ici, moi, localement, je les trouve très responsables, mes concitoyens. Et je trouve aussi que la majorité, vous savez, nous avons, les vacanciers, nous avons quand même une population qui revient tous les ans, il y a énormément de résidences secondaires chez nous, donc ce sont des gens qui viennent très souvent, qui vivent ici et qui vivent comme nous. Donc réellement, à la question, est-ce que les gens sont indisciplinés, je ne le ressens pas, et pas plus que je ne ressens véritablement des clusters un petit peu partout. Il y a des risques, bien évidemment, mais on se sent quand même, il n'y a pas une peur dans les rues. Quoi.
Patrick Davet, monsieur le maire de la Teste de Buch, ça va ralentir votre économie, tout ça c'est important justement que ça tourne, que ça vive, qu'il y ait de l'action et de la vie dans vos commerces, chez les professionnels.
Écoutez, oui, ça a déjà ralenti la première partie. Nous avons fait, Ville de la Teste, on a fait de gros efforts pour soutenir cette économie. On va continuer à le faire s'ils en ont besoin. Mais écoutez, là actuellement, on a quand même une économie qui tourne. Le bâtiment tourne très très fort. Bon, la restauration, ça va la ralentir, je sais bien. Mais nous avons la chance là quand même d'avoir une région qui ne vit pas que sur la saison aujourd'hui. Vous savez, nous avons 4 communes qui sont très très proches, Arcachon, La l'atteste, Jean Letèche. Nous sommes 60 000, donc il y a une économie locale qui tourne. Donc c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui sauve aussi nos locaux.
Alors le port du masque obligatoire dans les lieux de rassemblement, vous nous dites, monsieur le maire, tout cela additionné à une obligation d'une interdiction même de consommation d'alcool sur la voie publique, ça entre en vigueur ce mercredi. Ça veut dire qu'il y a eu des débordements, des mauvais comportements ?
Non, pas tant que ça. Non, je vous dis, nous sommes une population assez paisible. Vous savez, la consommation d'alcool sur la voie publique, bon, ça se fait pas trop chez nous, quoi. Ça se fait pas trop. Il y a toujours, évidemment, il y a toujours des dérapages, bien sûr, mais globalement. Et puis moi, j'ai ma police municipale. Vous savez, je lui demande, je suis exigeant avec elle et elle intervient. Il y a des choses que on n'accepte pas. Les gens torse-nu dans la rue, la consommation d'alcool. Donc les gens le savent. Ils viennent pas trop chez nous pour ça, quoi. Et on a une population que je remercie encore, qui a un comportement très responsable.
Le message pour vos policiers municipaux, celui que vous faites passer avec ces nouvelles mesures-là et le port du masque obligatoire, c'est quoi ? Ça va être de la pédagogie, des mots, ou alors il y aura carrément l'amende de 135 euros ?
C'est très simple. Vous savez, nous, d'abord, on fait d'abord de la pédagogie. Mmh. Et après, si la personne ne veut pas comprendre, ben, écoutez, il faut qu'elle fasse comme les autres. Hein. Vous savez, vous comme moi, si on brûle un feu rouge, on en connaît la sanction. Donc moi, aujourd'hui, je veux qu'il y ait du respect dans cette ville. Je veux qu'il y ait du respect, donc il faut que les gens qui arrivent de l'extérieur s'adaptent à la façon dont nous vivons ici. Mais on n'a pas de réels soucis, sincèrement, on n'a pas de réels soucis. Après, nous sommes une ville balnéaire, donc on a des jeunes qui, évidemment, se couchent tard, sont dans les rues, ont envie de faire la fête, comme nous l'avons fait, nous. Donc notre police municipale fait beaucoup de pédagogie, voilà, beaucoup de pédagogie. Et ça fonctionne, ça fonctionne.
Et la météo, ça va venir, ça va se dégager un jour, parce que ça n'a pas été terrible ces dernières semaines-là, hein.
La météo, je vous fais une confidence, effectivement, ce n'est pas le meilleur été que nous ayons, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je vais vous faire rire, nous aurons des champignons à l'automne.
Ça c'est bien, c'est important. Merci Patrick Davet de nous avoir accompagné ce matin.
Je vous en prie.
En direct de la Thèse de Buch, monsieur le maire, et bonne journée à vous, bonne application.
Vous savez que c'est la plus grosse commune du bassin, la Thèse de Buch.
Ah, il est fier.
C'est la plus grosse commune du bassin.
Il est fier, monsieur le maire.
28 700.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Patrick Davet, merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin. 8h27, on rigole avec monsieur le maire et les grosses têtes sur RTL après ceci. À tout de suite.
RTL Matin. Les sucrés. RTL, toujours avec vous.
Elles sont l'assurance bonne humeur sur RTL, les grosses têtes, 15h30, 18h, orchestré par Laurent Ruquier. Cet été, c'est le meilleur de la saison, avec un couple, et pas n'importe lequel. Dombal, Riou.
Est-ce que je peux vous appeler Ariel ?
Vous pouvez.
Parce que, en fait, je me posais la question ce week-end en bossant un peu l'émission. Je me suis dit, mais.
Ah, parce que vous avez bossé,
oui, j'ai révisé et tout. J'ai réussi à rééduquer la
qualité. Ah, ça, c'est bien, c'est déjà un plus par rapport à tous les autres.
Et oui.
Parce que je me pose la question, mais c'est quoi votre métier ? Parce que c'est vrai qu'on vous. Vous êtes, en fait, votre métier, c'est d'être Ariel Dombal. Vous êtes un personnage, parce que devant la vacuité de la vie, j'ai l'impression que vous avez compris que vous êtes une cour de récréation.
Non,
mais vous adorez l'autodérision.
Excusez-moi, qu'est-ce que c'est mignon ?
Laurent, il part trop fort, il va pas tenir.
Il faut mettre du talent dans son œuvre et du génie dans sa vie.
Ah, j'adore.
Du génie sa vie, du génie dans Ariel. Mais sans bouillir, sans bouillir.
Deux paquets pour le prix d'un.
Sans bouillir. Okay.
Les grosses têtes version Laurent Ruquier, 2h30 de bonheur cet après-midi. Rendez-vous, soyez là, 15h30. Sur RTL. Alors ce ciel toujours aussi agité, bon, bonne nouvelle quand même, il y aura un peu moins de pluie aujourd'hui. Hein.
Exactement, parce que c'est vrai qu'on vit l'un des étés les plus pluvieux depuis 7 ans. On avait eu 6 étés consécutifs secs depuis 2014. Ben là voilà, c'est un été donc pour l'instant pluvieux. Et en termes de température, à part à la fin du mois de juin qui fait un peu remonter la moyenne, c'est vrai que ça reste frais. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, souvenez-vous, on relevait 42,6 degrés à Paris fin juillet, c'était la canicule. On en est très très loin en ce moment et malheureusement Météo France à long terme ne voit pas ces températures remonter pour l'instant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va être un peu plus sec et c'est tant mieux. On aura encore quelques averses cependant près de la Manche, en Normandie, sur les Hauts-de-France. Averses qui déborderont jusqu'en Île-de-France en fin de journée. Mais retenez que les éclaircies seront beaucoup plus nombreuses qu'hier. Elles le seront surtout entre la Gironde, le centre, le sud de la région parisienne, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne. Dans ces régions, vous verrez logiquement le soleil dans l'après-midi. En revanche, entre le Pays Basque et l'ouest des Pyrénées, ce sera bien chargé et le ciel devrait là-bas rester gris jusqu'à ce soir. entre la vallée du Rhône et la Méditerranée. On a quelques averses orageuses qui circulent ce matin, mais qui sont en train de filer vers le nord des Alpes. Et donc là aussi, vous devriez retrouver le soleil en cours d'après-midi. En tout cas, entre la Côte d'Azur et la Corse, le soleil est déjà là ce matin. Et là aussi, il va rester toute la journée. Les températures ce matin, c'est plutôt correct. On est entre 14 et 20 degrés, 20 degrés, voire plus déjà dans le sud-est. En cours d'après-midi, ça restera frais au nord, avec seulement 19 à Cherbourg, 20 degrés à Brest, 21 à Lille, 22 à Rennes et Rouen, 23 à Reims, 24 à Paris. C'est un petit peu mieux dans le sud-ouest, 25 à peine à Toulouse, et ça reste chaud donc dans le sud-est avec 30 à Perpignan, 31 à Marseille et 32 pour Ajaccio.
Non mais sérieux, les habitants du sud-est veulent pas nous envoyer par colis postal.
Ça serait bien.
Hein, ouais. La chaleur. Vous avez rien là sur les radars à l'horizon pour...
En termes de chaleur, non, je n'ai rien. Je n'ai absolument rien. Et puis il y aura toujours des averses en fin de semaine sur le nord. Bon, ce sera sec dans le sud, mais ça restera frais, hein, ça c'est sûr.
Voilà le menu avec Anthony ce matin. Très bon réveil malgré tout. Il est 8h32.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier
et Hortense Crépin pour les essentiels de l'actualité.
La France a une dette envers la Polynésie française. Déclaration d'Emmanuel Macron depuis Papeete où il termine son voyage officiel. Dans un discours, le président s'est exprimé sur les essais nucléaires réalisés pendant 30 ans dans le Pacifique. J'assume et je veux la vérité et la transparence avec vous, explique le chef de l'État qui souhaite une meilleure indemnisation des victimes. Emmanuel Macron qui va ensuite tenir par visioconférence depuis son avion le dernier conseil des ministres avant le départ en vacances du gouvernement. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, invité tout à l'heure sur RTL, donne-lui rendez-vous le 30 août aux professionnels pour faire le point sur les pertes d'activité et promet que l'État répondra présent pour tous ceux qui ont été touchés par la crise sanitaire. On tente d'entraver mon engagement dans les échéances qui s'annoncent, dénonce Rachida Dati dans Le Parisien ce matin. L'ex-ministre de la Justice réagit à l'annonce de sa mise en examen, notamment pour corruption passive, et cela dans l'enquête sur ses prestations de conseil chez Renault-Nissan sous l'ère Carlos Ghosn. À Tokyo, troisième titre olympique pour les Français cette nuit avec la médaille d'or en aviron en deux de couple avec la paire Hugo Boucheron-Mathieu Androdias. Une course compliquée mais au final c'est la France qui s'impose. La dernière fois que les tricolores avaient remporté le titre dans cette catégorie, c'était en 2004 à Athènes avec dans le bateau Adrien Hardy qui était présent tout à l'heure au Japon.
Ah ben moi, je connais particulièrement bien ce bateau-là. Le plan, ils ont réussi à le réaliser malgré les conditions, malgré l'adversité. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont maîtrisé leur course de bout en bout. À un moment donné, les pointes sont passées, mais on ne s'affolait pas parce qu'on connaissait les forces de chacun. On savait leur capacité à bien finir la course. Ils ont réussi à faire une course très compliquée. Avec on savait que ça serait serré avec les Hollandais principalement. Les conditions de vent se sont levées et ça n'a pas facilité le boulot. Visiblement, ils ont même des fois un petit peu pioché. Mais là, ils nous ont fait vivre des émotions remarquables. On n'en vit pas tous les jours des émotions comme celle-là.
Le champion olympique au JO d'Athènes, Adrien Hardy, au micro de Nicolas Burnand. Et puis au lendemain du sacre de Clarissa Guignenou, la sale journée pour le judo français avec les éliminations de Margot Pino et d'Axel Clergé. Et puis à 18h30, ce sera On refait les Jeux avec Marie Portolano et Christian Olivier. Enfin en football, à 10 jours du coup d'envoi de la saison de Ligue 1, Vladimir Petkovic, nommé nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il est depuis 7 ans le sélectionneur de la Nati, l'équipe nationale suisse. Enfin, c'est désormais officiel. Raphaël Varane quitte le Real Madrid et rejoint Manchester United.
Hortense, nos champions d'aviron, on est quand même sur du 1m94, 95, 93, 94 kilos. Hein. Oui. On est sur du bonhomme. Quoi.
C'est costaud. Et quand on voit la vitesse du bateau, c'est quand même assez incroyable.
C'est spectaculaire. Merci Hortense Crépin. Toute l'actualité, c'est sur l'appli RTL.
Franquet sur RTL. Et demain.
Après un an et demi de crise sanitaire, RTL vous propose cet été un regard vers l'avenir sur ces vies chamboulées par le virus. Aujourd'hui, Guillemette Franquet rencontre la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, historienne de l'art et prof à Sciences Po.
Bonjour Laurence Bertrand d'Orléac.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, je ne me pose pas la question et donc c'est à vous de juger.
En général, quand on pose cette question, les gens ont une réponse. Qu'est-ce qui fait que vous, c'est aux autres pour vous de dire si vous allez bien ?
Oui, c'est aux autres de dire beaucoup de choses à mon égard. Je suis quelqu'un qui m'intéresse modérément. Bon, à mon âge, vous savez, bon, j'imagine que je me suis intéressée à un moment donné à moi-même. Et je crois que j'ai fait le tour de la question et j'ai envie d'autres paysages.
Si vous deviez penser à ce qu'on n'avait pas hier et ce qu'on aura dans le monde de demain, à votre avis, qu'est-ce que ce serait ?
Écoutez, j'espère que ce sera une nouvelle relation au monde. Pour ma part, en fait, j'ai très bien vécu cette pandémie. Enfin, j'ai très bien vécu cette pandémie. Tout est relatif. J'étais privée de beaucoup de choses que j'adore, et en particulier les autres, justement, dont il était question au début de cet entretien. Mais j'ai dû puiser en moi des ressources qui m'étaient quasiment inconnu. Enfin, je n'ai jamais autant écrit, autant imaginé, autant ouvert de fenêtres aussi. J'ai beaucoup ouvert des fenêtres imaginaires et j'ai constaté en fait que je n'étais pas la seule. Dans bien des cas, et en particulier chez mes étudiants, j'ai vu quelque chose de l'ordre d'une énergie du désespoir qui était absolument inattendue.
Quel impact, à votre avis, justement, toute cette énergie va avoir sur l'art ?
Je crois aux effets boomerang. J'ai travaillé beaucoup sur la guerre, sur les représentations de la guerre, sur les formes nées de la guerre, et aussi sur les après-guerres. Et effectivement, dans les après-guerres, il se passe des choses incroyables. Cette immense privation de liberté, enfin, appelons-la comme ça, en fait, ça va se transformer en quelque chose d'extrêmement puissant.
Et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer.
Si vous deviez trouver un synonyme pour le mot Covid, à quoi vous pensez ?
Pas grand-chose, j'aime pas le mot Covid, il est trop objectif. Je préfère le mot pandémie. Pourquoi ? Parce que pandémie, dans mon esprit, ça se réfère à toutes les pandémies. Et Covid, ça se réfère à quelque chose qu'on n'a toujours pas exactement comprise. Alors on fait semblant de la préciser avec un terme scientifique. Mais en réalité, c'est nébuleux, surtout quand on n'est pas médecin.
Cette année, il y a eu aussi l'affaire Duhamel, qui a beaucoup bouleversé Sciences Po. Vous êtes la nouvelle présidente de la Fondation nationale des sciences politiques. Comment vous envisagez l'avenir ?
Ouais, écoutez, je crois que tout le monde est encore sous le choc. Il y a quelque chose qui a été vraiment abîmé dans cette affaire qui est assez grave. C'est-à-dire d'abord l'idée qu'évidemment une personne puisse incarner un établissement, ce qui est loin d'être vrai, mais c'est comme ça. Donc il faut non pas être exemplaire, mais quand même essayer d'incarner aussi la maison. Ça n'est pas un milieu homogène. On a parlé d'entre-soi, certes, pour une personne, mais pour le reste, c'est l'endroit précisément où on n'est pas dans l'entre-soi. Donc Sciences Po de l'avenir, pour moi, c'est cette forme d'originalité qu'il faut non seulement conserver, mais déployer.
Est-ce qu'il y a une musique ou un son qui vous a accompagné pendant le Covid, que vous avez beaucoup écouté ?
N'importe quoi de Bach joué par Glenn Gould. Ça m'accompagnera jusqu'à la fin, dans les moments difficiles.
Merci beaucoup, Laurence Bertrand d'Orléac.
Merci à vous.
Demain, face à face avec une personnalité, le passé, le présent et le futur face au virus, c'est signé Guillemette Franquet. C'est tous les matins de cet été sur RTL. C'est tous les matins de l'été aussi, la culture. Laissez-vous tenter avec toute l'équipe et en particulier ce matin, Monsieur Cinéma, Stéphane Boutsock face à une vraie légende. À tout de suite.
Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec